Hey! Bonjour tout le monde et bienvenue au 46e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec la Divan Brand Agency, une agence de marketing au Chili. Ça se ressemble beaucoup. Eux peuvent vous aider à mieux vous faire connaître au Chili. Puis nous autres, ben, on aime ça du Chili. Hein?
C'est bon, du Chili.
Ouais. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 12 mai 2017. Journée internationale des infirmières. Donc, on aimerait saluer toutes les infirmières qui nous écoutent, ainsi que toutes les actrices porno qui ont déjà joué une infirmière qui nous écoute.
Il y a peut-être plus de ce qu'elle dit là. Hein?
Exactement ce qu'elle me dit.
Ça nous concerne plus.
Comment allez-vous?
Ben, oui.
On avait arrêté de demander ça.
Ouais, hein? c'est une bonne idée.
C'est pour ça. OK. Fait, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine, Dan?
Ben, premièrement, je vais m'excuser à ma tonalité. Là. C'est dû aux armes, là, aux arbres qui me pitchent leurs semences dans face.
Il se fait biokaki par la nature.
Ouais. Des images.
Ouais. On mettra ça sur Facebook.
Donc, deux assez grosses semaines dans le monde réel, là, ce qui fait que j'ai joué. Je ne dis pas que j'ai pas joué, mais par petits morceaux. T'sais. Fait qu'il n'y a rien de très poussé. Dans le fond, j'ai joué un peu en con à Shovel Knight. J'étais pas chez nous, j'ai décidé de me repogner à Shovel Knight. Puis j'ai refait, dans le fond, les deux premières campagnes, là, Shovel of Hope, puis Plague of Shadows. Mm-hmm. Puis j'ai commencé un petit peu là, Spectre of Torment, mais là, à un moment donné, je vais prendre un break. Là, j'ai quand même fait...
Non, t'arrêtes quand t'arrives dans le meilleur.
Mais je sais, mais je me garde ça pour une autre fois. T'sais, je vais y revenir, c'est sûr. En fait, là, j'ai pas fait comme... Je vais plus jouer, je vais juste faire un peu autre chose. Mais... j'ai eu du fun à rejouer Shovel of Hope, tu sais, que j'avais déjà fait. Puis j'étais vraiment dedans. Fait que même Plague of Shadows, là, que la première fois que j'avais joué, j'étais quand même un petit peu moins dedans parce que, bon, tu sais, on joue Plague Knight, là, c'est vraiment différent comme gameplay. Mm-hmm. Puis le déplacement est particulier. Mais j'ai quand même apprécié, là. Tu sais, c'est le fun parce que les boss, c'est plus les mêmes qui sont tough, qui étaient tough avant, là. Sinon, l'arrivée de Mario Kart 8 Deluxe.
Que je suis clairement la seule personne au monde qui a une Switch qui n'a pas encore acheté. Là.
Ben oui. Hein?
Bon, je vais faire ça.
Qu'est-ce que tu fais?
On a même joué ensemble, ouais. Jeff, autrefois, avec ma blonde pis tout.
C'est ça.
Tu vois, il y avait deux petits Dan qui courent ensemble.
Ah, il n'y avait pas de nom? Ah, tu sais, c'était pas un mi. Il faudrait qu'elle se fasse un mi. Je pense que son nom, ça apparaîtrait son nom. Là. Ça doit être juste un guest.
Fait qu'elle... Ah, peut-être.
Non, en fait, je joue à deux manettes.
Ben oui. C'est tellement beau la Switch, tu peux jouer à
Dual Wielded et Kart. achat un peu impulsif dans le fond de mon côté parce que je l'avais déjà sur la Wii U quand je l'ai acheté, ma Wii U, il était bundled avec, là, il était avec. Puis, dans le fond, la majorité des choses qui étaient des DLC, puis tout ça, il était dans le bundle. T'sais. Fait que les pistes, je les avais toutes. Il y a juste les personnages là, que je n'avais pas nécessairement toutes parce qu'il y a les Inklings là, qui ont été rajoutés, mm-hmm. qui sont devenus mes personnages préférés juste à cause de leur petit son. Puis que quand tu jumps, tu te transformes en pieuvre. Là.
Ah ouais,
c'est écœurant.
Ben oui. Les Inklings, évidemment, les personnages de Splatoon.
De Splatoon, hein? Merci. Mm-hmm. Mais pas de regret, même si je l'avais déjà. Plus de gossage de cette petite batterie, c'est controller de Wii pour la Wii U. Ouais. Pas ouais. de gros. Crise de controller aussi de la Wii U pour jouer qui est pas super.
Ah, le gamepad, ouais.
Tu sais, le gamepad, il est confortable, mais je trouve pour jouer à Mario Kart, c'est un peu weird. Tu sais, ça n'a pas le feel intéressant. Ça ramène le fun aussi du côté party game de Mario Kart.
Ouais.
Tu sais, la Wii U, là, on fait une game de Mario Kart, là, tu pars avec la console. Puis là, tu as le power supply qui est vraiment pas efficace à traîner sa Wii U. Tu sais, tu as un bout de fil, une grosse boîte, puis un autre bout de fil. Ton fil pour le brancher. Ton gamepad, puis le fil pour brancher le gamepad, parce que c'est sûr que tu vas manquer de batterie sur ton gamepad, plus les manettes de Wii, puis genre, tu sais, tu te rends un backpack pour... Je suis allé chez ma belle-mère la semaine passée, j'ai dit à mon beau-frère, « Hey, on joue à Mario Kart, ça va être le fun, tu sais. » Fait que j'ai amené ma Switch, qui rentre dans mon petit case là, avec les deux Joy-Con, mm-hmm. un nouveau dock, puis un fil de courant. Il a amené ses deux Joy-Con, that's it.
C'est fou, là. Ça, en fait, ça fait deux semaines là, qu'on n'a pas sucé la Switch.
Non, non,
non. fait que on est dû pour y revenir.
Elle était en manque.
Mais
on voyait un texto hier, là. Comme...
Mais justement, je hijack ton thread parce que je m'en allais un petit peu là-dessus aussi, là, mais... j'ai acheté NBA Playgrounds.
Ouais.
Tu sais, puis c'est tellement. Genre, la version Switch est inférieure. En mode tablette, elle roule à 540p. Le loading est quand même long avant chaque game. Puis l'online, présentement, c'est une joke, tu sais. Mais j'aurais quand même pas acheté la version PC. Parce que la Switch est juste beaucoup trop convenient.
Ah, ben c'est ça.
Puis c'est fou comment ça feel, comme si ça fait deux ans qu'elle est chez nous, cette bébelle-là, à quel point c'est naturel d'aller...
On s'habitue vite au... Ça s'inscrit bien dans nos habitudes, dans notre quotidien. Là, t'apprends, tu pars avec, puis c'est facile.
On a fait jouer ma nièce qui a comme 7 ans, tu sais, ou bientôt 7 ans, qui a 6 ans. Tu sais. Ça va être trop difficile. Mais non, parce que tu sais, son père joue à Zelda, puis tu sais, ouais, effectivement, celui-là il est trop tough. Là. Mais je dis, ben non, regarde, tu pèses ici pour avancer, puis tu tournes comme un petit volant.
Mais même pas. Moi, je l'ai acheté.
Parce... en mode accélération auto. Là.
Ben c'est ça, t'as le mode qui accélère automatiquement, puis t'as l'autre mode que tu feras pas un 180. Là, fait, tu peux pas... Non, tu peux pas tomber dans le vide.
Tu peux tomber dans le vide.
Fait que tout d'un coup, je joue avec Lee qui a 4 ans, puis il gagne les courses quand même, il est capable de suivre, il est capable, tu sais, c'est son fun, là, il rattrape papa, puis il lance une coquille bleue.
Fait que c'était ça.
Parce que je suis tout le temps premier.
Non, c'est ça le danger, par contre, de la Switch.
C'est vrai que tu te vantes de battre un kid de 5 ans, là.
t'es bon. Mais c'est ça le danger, par contre, avec la Switch, c'est que si tu joues en mode tabletop, là, directement sur la tablette, puis que quelqu'un te garoche une coquille bleue, elle se lance bien en tabarnak, là.
Ouais, c'est vrai, par exemple. Mais bon, c'est pour ça que tu traînes ton doc dans ce temps-là. mais c'est ça, on a fait toujours ma belle-mère, mon beau-père. Tu sais, mon beau-père, que je pense pas qu'il a touché une manette depuis le Duck Hunt. Là, fait que c'était comme, mais regarde.
Pierre, probablement la manette de l'air climatisé chez eux.
Nous, on l'a pas convaincu. Là, ça a été la nièce qui fait grand-papa, je veux jouer avec toi. Fait que là, il a fait OK, tu sais. Mais c'est ça, tu dis, gars, pèse là, puis that's it. Là,
ouais, puis
tourne facile, comme un volant.
Mais c'est ça.
Puis le thumbs up, c'est ça que j'allais dire aussi au système pour aider le champ pour les kids, le fait que tu vas tomber en bas. Puis avec le, c'est très drôle parce qu'il y a vraiment une petite antenne en arrière de ton cart avec une petite boule qui devient jaune quand elle active. Là. Quand même un petit,
c'est le premier jeu, point final, que j'ai sur lequel je peux jouer vraiment avec mon gars puis qui est capable de suivre. Puis tout le monde a du fun.
Bon, il y a pas de bon, mais là, je m'en vais jouer avec mon gars, fait que je m'en vais pas avoir de fun.
Ben non, c'est ça. T'sais, j'ai joué à Zelda, puis il veut tout le temps me regarder jouer à Zelda, mais il sait qu'il est pas capable de jouer, qu'il a de la misère.
C'est son
mais,
père,
mais
il veut aussi regarder des jeux qui en jouer.
pour Ellie, Zelda, c'est un walking simulator.
Ben non, mais toutes les petits tours de cheval, faut que je donne la manette. C'est long, on se rend dans quelque part quand « Ah, c'est moi qui conduis le cheval! » OK.
Y a-tu ses licences?
Sinon, un petit trip Portal. J'ai réinstallé Portal. Puis nice. Éventuellement, Portal 2, je pense. Là, je vais me faire un petit plaisir avec ça. J'ai ressorti WWE 2017. Ouais, les shows étaient pas bons cette semaine-là. Ah, m'a joué moi-même.
Je vais faire mon show.
Fait que j'ai eu mon fixe de gars en chest qui donne des claques.
Au lieu de jouer avec ses petits G.I. Joe, il joue avec son jeu.
J'ai pas acheté les rings qu'on a vus au 3-2 l'autre fois.
Il aurait pu faire des prises de lutte à ses chats sur son petit ring de lutte.
On voulait acheter les lapins et mettre la cage dans...
faire un cage match.
Mettre le ring dans la cage, faire un cage match avec les lapins.
C'est comme beaucoup trop inside. Là. Je pense comme, de quoi qu'il parle? On est allé au marché aux puces ensemble la semaine dernière.
Comme d'habitude, c'était au niveau de...
C'est au niveau d'un épisode de Divan Quest, donc c'était pas si drôle que ça. Mais on avait du fun pareil.
Ben, c'est ça l'idée. Côté cinéma, je suis allé voir The Circle. Tu sais, le film avec Hermione puis Finn. Là. Ben, Mo Watson puis John Boyega.
Oui.
Moi, je suis pas capable de leur dire leur nom. pour ceux qui n'ont pas suivi, là, c'est
l'histoire de... Tom Hanks, là-dedans?
Oui, Tom Hanks aussi, là-dedans. Okay, ouais. Je trouvais pas un gag avec un personnage douteux, là. Fait que... c'est l'histoire de May Holland qui se fait comme engagée par une compagnie techno, là, une espèce de Google, mais comme qui a forniqué avec Microsoft puis Facebook. Là, genre. Mm-hmm. Qui se retrouve une nouvelle technologie de la compagnie, développée par la compagnie. Puis on touche là-dedans là, les sujets de vie privée, de surveillance, de liberté, puis tout ça. C'est quelque chose d'univers dystopien. En même temps, comme qui est mauditement plausible, là, parce qu'on n'est pas dans un futur comme très loin là-dedans, puis pour la technologie est. Pratiquement rendu au niveau du film. Là, fait qu'on n'est pas en affaire de 2000...
C'est le nouveau boogeyman de choix, là, les médias sociaux. Ouais. Oui, il y a des bonnes raisons, mais c'est comme, bon, qu'est-ce qui fait peur aux matantes? C'est le nouveau communisme. Là. Genre, on a toutes peur de la vie privée des médias sociaux. Là. Ça, nos matantes capotent.
Ben, c'est ça. C'est pas un chef-d'œuvre, je dirais pas ça quand même. Il y a beaucoup de plot holes, puis ça m'a quand même donné le goût, moi, de lire le livre en me demandant s'il va y avoir plus de développement sur les personnages. Parce que des fois, il y a des personnages que tu comprends juste pas. Je fais, non, mais... Pourquoi?
Pourquoi comme, il existe?
Pourquoi ce choix-là a été fait? Il n'y a comme pas de raison. Puis peut-être que c'est développé un peu dans le livre. Fait que c'est peut-être juste une mauvaise adaptation d'un livre, comme c'est souvent le cas.
Puis quand il fait son entrevue, il ne drop pas le Soylent dans son entrevue?
Ouais, c'est, il fait une entrevue avec des choix là, de deux affaires. Puis c'est Soylent or je ne sais plus trop quoi. Là.
Pas très populaire comme produit, je ne sais plus trop quoi. Hein. Ça n'a pas levé autant qu'on prend ça.
Donc, pourtant que le Soylent qui s'en vient mainstream un peu plus, on dirait.
Bon, il y a quand même une couple de gags un peu là, techno là, pour...
Ouais, voilà. Servir le public.
Et j'oublie c'est quoi le reste du gag. Tant pis, ils iraient voir le film ou pas. mais mon but, c'est quand même de faire un shout-out spécial. J'ai comme fucking ri quand j'ai vu une personnage qui joue une congresswoman dans le film. Puis c'est Judy Reyes qui est... qui est Carla dans Scrubs.
Oui.
Puis le genre tout le long qui était là, puis c'était un bout un peu sérieux, puis tout ça, où est-ce qu'elle disait, je vais être transparente, puis tout, genre mettre mes emails publics, puis tout ça. Puis moi, j'étais juste comme je giggle dans ma chaise, parce que dans ma tête, je suis toujours repensé à Scrubs. un autre petit shout-out aussi à Sandy Parikh, qui jouait Zabu dans The Guild.
Ah, sacré.
Qui a un troisième rôle muet, genre, puis qui est crédité comme étant le Foreign-Born Circler.
Sacrifice.
C'est super poche, puis il est un peu raciste, je trouve.
Ben là, il est quand même foreign born.
Ouais,
là, c'est assez descriptif. Ouais.
Côté TV, je suis parti sur un petit trip de Tout le monde en parlait.
OK.
Ouais, l'émission Radio-Can qui repasse des moments historiques assez récents, tu sais, vu que l'idée est quand même de mettre des images d'archives, là. Puis c'est comme le bout de l'histoire, moi, qui me fait triper beaucoup. Fait que je suis un peu parti là-dessus. Puis c'est vraiment le fun pour ceux qui pourraient avoir un intérêt. C'est surtout Point TV. Pratiquement toutes les saisons sont là, sauf la 3 et la 4, là, pour une raison obscure. Je sais pas si. Ils ont perdu le tape dans la poubelle.
Il y a combien de saisons présentement
15, genre.
Ouais
12-15, en tout cas, c'est pas la même.
Tabarque,
ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement des saisons genre de 25 épisodes non plus. Tu sais, des fois, c'est des saisons de 10, 8 ou 10 épisodes.
Quand même,
là,
quand même. Ouais. Ouais.
Bref, ça, c'est vraiment cool. Là, puis,
c'est un épisode par semaine, right?
Je pense que oui, mais dans des off-season, tu sais, fait que c'est pas.
Ça fait longtemps que ça roule.
Ouais, ça roule. Tu sais, mettons, là, je suis dans saison 5, qui est comme 2010, je pense. Okay. J'ai fait comme, c'est en quelle année, ça? Parce qu'il parlait de, du sommet des Amériques à Québec, tu sais. Puis là, il parlait des manifs, puis tout ça. Puis je suis comme, il n'y a aucune référence à 2012. Ça doit être avant. Ah ouais, 2010.
Ça s'en vient.
C'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Fait que fun and learning de mon côté, de mon univers télévisuel des dernières semaines. What are you looking at, nerd? I thought I was looking at my mother's old douchebag, but that's in Ohio. Réplique de Booger de La Revanche des Nerds. Toi, Matt?
Écoute, j'ai tellement moins de choses à dire. Ben, comme j'ai mentionné pendant que tu parlais, NBA Playgrounds, parce que j'essaie toujours de recapturer le jeu qui aura l'impact de NHL Open Ice dans ma vie. Puis NBA Playgrounds se veut quand même un descendant spirituel de NBA Jam et NBA Street. Plus de NBA Street qu'NBA Jam, là. N'en déplaise à plusieurs fans. Mais sympathique. Pour un petit jeu à 20$, c'est très, très polish. Là. Il y a vraiment comme un beau produit.
Ah, puis c'est quand même pas cher. J'aurais pensé qu'il aurait comme vendu ça à un prix de con. Puis,
Ben, en fait, il n'aurait pas pu vendre ça full retail. Là. Ça n'aurait pas levé. Là.
T'as raison. C'est comme un 2 Switch, tu sais.
Ouais, ben c'est ça.
Super Bomberman Air.
Bon, fait que j'ai joué un peu à NBA Playgrounds, fort sympathique. Moi aussi, j'ai recommencé Shovel Knight, parce que c'est mon pèlerinage annuel. Là. Faut que je repasse par là. Hein? J'ai pas joué.
Faut pas tes pouvoirs.
Shovel Knight à Compostelle.
Et voilà. t'as creusé ton chemin. Mais j'ai vraiment découvert, par contre, quelque chose qui va changer la vie de tout le monde. En fait, j'ai trouvé mon nouveau site Internet préféré.
Mieux que la Verge?
Oui, oui. Étrangement, oui. Il y a un gars qui a créé un programme qui s'appelle Pink Trombone. Non. Je vous arrête tout de suite. Qui se trouve à être, en fait, un synthétiseur vocal. On voit une représentation interne des cavités nasales, de la gorge et de la bouche, et on peut simuler les effets du son selon le déplacement de la langue, de la gorge et des lèvres pour voir comment que le son réagit.
Wow.
Fait que d'un point de vue, justement, scientifique, c'est super intéressant. Mais... mais le fun, c'est pas le point de vue scientifique. Ce qui est le fun, c'est de pouvoir faire des bijoux comme ça.
Moi, je veux un remix du grapefruit.
Du grapefruit technique. Ah, oh, sacrifice.
Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, vous irez googler, puis pas en public.
J'ai juste hâte au prochain band qui va utiliser le pink trombone comme un instrument. Non, ça aussi, cette phrase-là marche fucking pas. Mais bon, hein, c'est. Le coq.
La 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 la.
C'est le premier mash-up des deux.
En plus, là, moi, je l'ai fait sur mon ordinateur. T'es un peu limité, malheureusement. Mais il marche en multitouch si t'as un appareil tactile suffisamment performant. Fait que tu peux tenir la paroi de la gorge. Tenir la gorge en tirant sa langue ou sa lèvre en même temps pour voir comment le son réagit. Puis tu peux contrôler aussi le pitch et la quantité d'air qui passe. Fait que c'est fascinant, mais après une seconde de fascination, ça devient juste... Fait que c'est tout pour moi cette semaine.
T'as vraiment beaucoup joué avec le Pink Trombone?
Ça a occupé beaucoup plus de mon temps que ça aurait dû.
Puis ça, c'est toi qui as fait ça ou t'as trouvé ça?
Oui, c'est moi. C'est, okay, moi. C'est mon œuvre.
C'est le compte original avec un trademark. On monétisera ça sur YouTube.
C'est pas reconnu, j'ai essayé de reproduire un monologue de Peter McLeod.
Applaudis, toi! Ah ouais, c'est une
erreur! Oh. Définitivement, t'as eu la meilleure semaine.
Les hosties de bruit de gars, mais... Toi, Jeff!
On essaie de battre ça.
Hein, écoute. Non, moi, je... Je lance la serviette, écoute.
Je savais pas que j'avais un nouveau drop avec ça. Oui.
Fait que ouais, ben non, comme on parlait, j'ai joué beaucoup à Mario Kart aussi. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la question sur Mario Kart. Sinon, j'ai fini Breath of the Wild. Après 55 heures de jeu, j'ai été plus conservateur un petit peu que Dan. Super cool, sérieux. Agréablement surpris de la fin. Genre très agréablement. Clairement, là, le dernier, je dirais, 40 minutes, là, ça, c'est mon
château,
highlight. Là. Ouais, c'est, ça. Ouais. C'est clairement mon highlight du jeu.
Nice. Là, c'est pas un château. Aller dans... T'as été dans la chambre de Zelda?
Non.
Quand tu prends dans le château, il y a la chambre de Zelda, genre comme sa chambre puis son étude, là, puis c'est comme...
OK, faut que je retourne. Ben non, c'est super, vraiment super, super cool. Puis tout le long du jeu, tu sais, quand on en a parlé un petit peu cette semaine, tout le long du jeu, j'ai évité les linelles, les fameux centaures. Parce qu'ils étaient beaucoup trop difficiles la première fois que je les ai rencontrés.
C'est tellement le nom le moins viril ever pour un centaure. C'est comme un Lionel.
Ouais, c'est un petit Lionel qui a perdu son haut.
Mais tu sais, ils sont tellement difficiles qu'à travers tout le jeu, je les ai toujours évités. Puis j'ai comme jamais revisité ces situations-là parce que j'avais comme développé le réflexe de je vais passer ailleurs parce qu'il y a un Linel. Mm-hmm. Puis là, deux fois, tu rentres dans une tour puis les portes fermes, t'es obligé de l'affronter. Fait que la première fois que j'ai mon premier win contre un Linel, c'était très, très, très satisfaisant. Fait que non, vraiment,
mais c'est ça qui était carrément, ce jeu-là. Le premier Linel que tu tues, le premier Guardian, t'as comme « Yes!
Mais tu sais, surtout que là, t'es dans une pièce ronde, les portes se ferment, il y a un Linel, puis il y a des yeux qui font spawner des petits monstres au plafond. Fait que t'es tout le temps en train de te faire attaquer par en arrière, en train de te défendre en avant. Puis la deuxième fois, ouais, c'est...
Se faire attaquer par en arrière.
Exactement.
On s'est retenu. Ben, trop tard, là, t'as réagi, fait que...
Deuxième fois.
Ouais, la deuxième fois que tu te prends par l'arrière, je sais pas.
C'est ce que je trouve qui est génial, le jeu-là, un des génies de. Tu peux te prendre comme tu veux. Fait que la deuxième fois que tu as une salle semblable, j'ai reconnu que. Escalader par en haut, puis me lancer à reculons d'entour, puis activer là, quand tu sors ton arc, ça ralentit le temps, pour laisser le temps aux yeux de s'ouvrir, détruire les deux yeux avant d'atterrir, puis que les nains spawnent pour pas être pris avec les mobs qui spawnent en plus.
Avec Link qui fait des Matrix moves.
Ouais, fait que c'est très, très, très satisfaisant. Puis le boss de fin est juste. Clairement le meilleur encounter du jeu. Fait que c'est,
ouais, il est nice.
Si jamais vous n'êtes pas rendu là, puis c'est un peu comme Matt, vous.
J'écoute, là.
Vous prenez trop votre temps. Allez-y, ça vaut la peine.
Moi, je te jure que Ganon, à la fin, il y a comme clairement des mécaniques que j'ai cheesées en ayant une armure trop forte. Là. J'étais comme, je sais pas comment dodger ça. Fuck off. fuck you.
Mais tu l'as mérité.
Ouais, c'est ça.
Parce que t'as passé du temps exploré, oui, fait oui. Que t'as eu ces outils-là. T'sais.
Non, c'est vraiment nice. C'est vraiment un bon jeu. Puis, moi, le premier Linel que je me suis battu contre vraiment, c'était quand j'étais allé chercher le gros cheval dont on a de parler. Puis en revenant avec le cheval, avant de le mettre en étape, donc de l'avoir pour vrai, il y en a un Linel qui m'a parti après puis qui m'a shoté de quoi. Fait que je tombais à bas du cheval. J'étais comme tabarnak. Fait que là, genre, il fallu que je le tue si je voulais pogner mon cheval.
C'était vengé.
C'était pour le cheval.
Sinon, moi aussi, je me suis donné un petit peu au niveau de la télévision. J'ai visionné toute la première saison, puis j'ai commencé la deuxième saison de The Man in the High Castle.
Oui, ça va être cool.
C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est une uchronie, c'est pour ça qu'on appelait ça, donc une version alternative là, de l'histoire. Puis là où uchronie il y a, disons. C'est...
Uchronie.
Uchronie.
Oui.
Uchronie.
Uchronie. Attends une minute. Ça? Attends une minute, c'est... Ça, c'est vocalise.
Non, on a pas fait avant. On se préparera à ma réflexion. La réflexion. Non.
Il va être long, ce show-là.
C'est parce qu'il est de bonheur le matin. C'est ça. Donc, l'Uchronie,
oui.
Comme on disait, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas les États-Unis qui ont lancé la bombe nucléaire, c'est les Allemands qui l'ont développée et ils l'ont lancée sur New York. Donc, l'histoire se passe aux États-Unis où les États-Unis, l'Amérique du Nord est séparée en deux. La moitié, c'est le American Reich et l'autre côté, c'est la République japonaise ou quelque chose comme ça. C'est séparé.
C'est comme depuis l'élection de Trump.
Ça n'a pas vraiment de différence.
Fait que, mais super intéressant de voir la
en quelle année se constitue?
En 1960-ish.
OK.
Que ça se déroule.
Donc, une quinzaine d'années après tout
ouais,
ça.
Oui, c'est
là.
Ça. Mais tu sais, clairement, ils sont installés. Là.
La seule vraie question, là, puis j'espère que tu as une réponse, c'est. Est-ce que le mouvement beatnik s'est développé quand même?
Non. Et non.
Batins.
mais il y a plein de choses. Mais ça fait partie de ce qui est intéressant du show, c'est qu'il y a plein de choses qui se sont développées quand même, mais tout le temps avec une petite twist, il y a un petit côté différent. Puis tu vois tout le temps les deux côtés, comment les Japonais auraient.
Est-ce que 99 Balloons va être en anglais?
Ouais.
Ah ouais, t'as l'air quand même. En tout cas, c'est compliqué.
Il va avoir un bout en allemand.
Ah ouais.
Ça va être juste l'inverse. C'est...
À suivre. Je prends du là dans le show.
C'est ça. The Reich of the 99 Balloons.
Ouais, le setting est super intéressant. C'est vraiment bien fait. Puis on suit en fait comme des personnages qui appartiennent à la résistance, qui est assez américaine, qui veut se rebeller. Puis ce qui motive la résistance, c'est qu'il y a des bobines de films qui sont retrouvées puis qui sont comme smuggled à travers les deux parties, les deux côtes du continent américain. Puis sur les bobines de films, c'est des bobines qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui montrent des choses qui ne sont pas passées. Par exemple, comme une victoire américaine en quelque part, ou quand dans les îles, dans le Pacifique, on voit les Américains qui lèvent le drapeau. Ils voient ça dans une vidéo puis ils ne comprennent pas parce que c'est pas arrivé. Donc là, il y a une histoire de quelque chose d'alternatif peut-être que je tairai et tiendrai sous silence pour l'instant.
Ouais, non,
jusque là, c'était intéressant parce que j'aime tout le temps l'histoire puis j'aime tout le temps ce genre de truc-là. Puis là, t'as comme fait...
Il y a du sci-fi à cette Uchronie.
Un petit peu, puis c'est pas... À date, il y a aucun cliché. T'sais, c'est pas le cliché de c'est un monde alternatif puis on va voyager entre les deux. Ou mm-hmm. En fait, c'est ça, je sais pas encore.
Mais, oh, fuck.
Super intéressant, vraiment bien, vraiment présenté. Puis ça jouait sur...
C'était pas genre Amazon? Genre,
Amazon ou Hulu ou quelque chose, je pense.
Ouais, mais bref, c'était un service en ligne qui l'offrait. Ça n'a pas joué à la télé.
Ben, j'ai Amazon, moi.
Hey, c'est vrai.
Ouais. Fait que si vous cherchez...
Hey, j'ai des torrents, moi. C'est ce qu'ils disent dans ce temps-là, hein? Do what you want, cause a pirate is free.
You are a pirate. Fait que, tu sais, si vous êtes à la recherche d'un petit TV show intéressant, c'est... je vous le suggère!
Fait que dans l'actualité, on commence avec une nouvelle dans la catégorie, ben au moins ça fit dans le thème. Un jeune homme de 11 ans de la Floride a découvert dans le manuel d'instruction de sa copie usagée de GTA V sur Xbox One un sac de plastique contenant une substance blanche. Son indigne génitrice, parce qu'on s'entend qu'elle a acheté GTA V à un kid de 11 ans, crise de fesse, a immédiatement appelé la police, qui ont confirmé qu'il s'agissait bien sûr de méthamphétamine. 6 grammes.
Quand même.
Hein? Le reste de l'histoire là, relève d'un segment de TVA Nouvelle là, avec la redneck de mère qui sac plein son Facebook et une série de réponses de PR vide du gérant du GameStop où le jeu a été acheté.
Il y a quelqu'un qui a pissé sur le couch dans cette histoire-là?
Nick, c'est un gros bit-bit noir. Mais non, je vous épargne tout ça. Mais je tire deux conclusions importantes de cette histoire. Un, elle a eu un crise de bon deal.
Ben, je pense que la police est repartie avec.
Ouais, mais là, c'est...
Elle aurait eu un crise de bon deal.
Elle est vraiment pas sharp, hein? Elle achète GTA V à un kid de 11 ans, puis elle donne de la merde à la police, tu sais. En tout cas, et deuxième conclusion, hein? Il y a un manuel d'instruction dans la boîte de GTA V.
Non, il y a juste un sac de merde.
Alors ensuite, une autre histoire à propos d'une copie physique de jeu, mais cette fois-ci, elle n'a pas été accessoire à un crime, mais plutôt une victime. Cliquez ici pour avoir les détails. Non, c'est correct. Polygon nous rapporte...
If you want to know more.
Ouais, c'est ça. Would you like to know more? C'est BuzzFeed ou Starship Troopers, tu choisis. Polygon nous rapporte que l'utilisateur Reddit RabbitMix était en train... Ouais, on s'arrêtera pas à ça. Était en train de jouer à Prey, seul chez lui, alors qu'il a entendu un bruit sec, suivi d'un son de vitre qui se brise. Sur le coup, il pensait avoir affaire à une ampoule qui vient de lâcher. Là. Bon. Mais ensuite, il remarqua un nuage de poudre de J-Proc à la gauche de son moniteur. Et à la source de ce nuage, un trou de balle. En cherchant où la balle avait pu aboutir, il la retrouvera profondément logée à l'intérieur de sa copie de Elder Scrolls Anthology. Une collection regroupant tous les titres de la série là, en version PC.
Il y a quelqu'un qui aime vraiment pas les mémos dans son coin.
Il est même pas dedans, Elder Scrolls Online. Mais bien, Morrowind a souffert bien pire qu'une flèche dans le genou en se payant une balle dans le DVD. Et évidemment, il a contacté la police là, qui ont pris l'affaire en main.
Il partait avec un sac de net. Non,
ça, c'est chez le voisin. L'article mentionne également que Bethesda a contacté M. RabbitMix et lui ont offert de remplacer le produit par une copie identique. Bien que très généreux de la part, là, je comprends pas pourquoi le gars voudrait un autre Elder Scrolls Anthology avec un disque pété et un trou de balle dedans. Ouais.
Mais c'est-tu lui qui avait vendu l'autre disque à Madame de tantôt? Il me semble que ça semble le même genre
de quartier.
Il vit dans un quartier dangereux pour les gamers.
Ou pour les jeux, en tout cas. Et finalement, vous avez sûrement entendu parler de la campagne d'hameçonnage que les gros méchants pirates de l'Internet ont propagée la semaine dernière, visant rien de moins que les utilisateurs de Gmail.
Ouais.
Bon, ben, premièrement, ça nous prend. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. La tentative de phishing se présentait comme un courriel provenant d'un de vos contacts de confiance et vous invitait à aller voir un document sur Google Docs. Eh bien, si vous suiviez le lien, bien que vous autorisiez en fait une fausse page Google Docs à avoir accès à votre vrai compte Gmail, donc vos courriels, vos contacts, vos documents, puis vos selfies aussi avantageux que possible de vos parties génitales. Non, pas vraiment, c'était juste les contacts qui étaient exposés, mais je pouvais pas faire de joke avec ça. Alors, Google a depuis désactivé les comptes frauduleux, mais avise quand même les gens que s'ils reçoivent un courriel leur demandant de consulter un document Google sans texte qui l'accompagne, bien que c'est possiblement une tentative de fraude. Divan Quest, de son côté, aimerait vous mettre en garde d'une bien plus grande menace. Si quelqu'un de vos entourages vous envoie un lien vers un épisode du podcast Les sorbets du caractère mou, eh bien, méfiez-vous. Il est très probable qu'il s'agisse en fait d'un lien vers un épisode du podcast Les sorbets du caractère mou. Considérez-vous comme averti.
Mais sur là, ce qui est intéressant, c'est que les pirates qui ont fait ça, ont eu, à cause de la façon que l'architecture de Google est faite, puis tout est ouvert, puis c'est open source, l'interface de login, ils n'ont pas eu besoin de la spoofer ou de l'imiter, parce que tu peux prendre directement la vraie interface de login de Google, c'est avec tout le code qui vient en arrière. Enfin, c'était un vrai login
Google. Pour l'avoir utilisé, pour avoir eu à développer avec l'interface de login de Google, en général, par contre, c'est que ça te retourne une clé d'accès, mais ça ne te donne pas les credentials. Fait que ça a beau être visible, faut quand même qu'il y ait eu un certain effort là, pour sans la spoofer, pour pouvoir l'utiliser puis détourner le résultat. Parce qu'il ne te retourne pas les informations de l'usager, évidemment, quand quelqu'un te donne des autorisations.
Ça, on reste quand même que pour faire croire que c'est un vrai courriel de Gmail, c'est comme c'est facile.
Ça a rendu ça particulièrement simple à reproduire.
Et oui, qu'est-ce qui s'en vient de l'univers de Divan Quest dans les semaines du 15 au 29 mai? Vous êtes prêts, messieurs?
Toujours. Toujours.
Je commence ça le 20...
C'était
beau. 21 mai à la télé. C'est une description courte, là. Agent spécial du FBI, Dale Cooper, garde retour à pic 25 ans plus tard. J'ai un drop audio.
Yes! Non, Twin Peaks.
Ah oui, ben ok, j'avais écouté.
La saison 3 de Twin Peaks. Ouais, la saison 3 comme qui se passe aussi 25 ans plus tard dans le, ben je pense que c'est 20 ans dans la réalité, mais 25 ans dans l'univers fantastique. La description était courte, il n'y a pas grand chose à dire.
C'est ça.
Ouais, il y a retour à pic. 25 mai au cinéma. Il est peut-être facile parce que j'ai pas blendé beaucoup. Mais je trouve ça vraiment drôle parce que je l'ai droppé juste une fois dans une traduction d'anglais à français, puis ça m'a donné ça. Je l'ai gardé de même. Bay Montre suit maître nageur dévoué comme il bute la tête avec une nouvelle recrue sarrasin. Ensemble, ils découvrent un complot qui menace l'avenir de la baie criminelle locale.
On parle ici forcément de Baywatch.
La baie sarrasin.
David Azeloff en chest.
J'ai pas mis la nouvelle toune, c'était plus drôle la vieille.
Hello. Ça montre son âge. Un peu comme Twin Peaks aussi, d'ailleurs.
Oh, oui, quand même. Ben oui, la version 2017, là, avec encore des muscles et des boobs en slow motion. On passera pas à côté.
Ben là.
26 mai sur PS4, Xbox One et PC. Un étranger, l'île de Pâques en secret. Et l'aventure dans un monde de différence. Boy trouve la clé pour résoudre un certain nombre de casse-têtes classiques. Yulr a un groupe pour contrôler votre situation et le temps lui-même.
Je suis sûr.
Contrôler le temps.
Je pense pas que ça aide, mais je trouve ça bon.
Ok.
C'est vrai que c'est bon. Qu'est-ce qui s'en vient bientôt?
Ah non, t'as raison, ça va être crissement.
Ça donne un goût de jouer. Rhyme.
Ah, ouais. Bon, ben... Ben non, non, Rhyme, c'est la bonne réponse. Je te mettais pas le nom.
Ouais.
C'est comme Chris, c'est moi qui le fais le quiz. Je sais que c'est ça, le jeu.
Oui, Rhyme qui va sortir sur la Switch éventuellement aussi.
Ouais, qui sort sur tout sauf la Switch, qui va être une copie physique 10$ plus chère.
Ouais.
Mais ils ont finalement, par contre, pour revenir sur cette histoire-là, là, c'est qu'il y avait beaucoup de mauvais sang. Parce que la copie Switch était 10$ plus chère que sur les autres plateformes. Mais à cause du coût de la production physique d'un jeu à petit déploiement comme ça. Puis Nintendo interdise aux développeurs de faire un prix différent pour les copies physiques et digitales. On peut comprendre pourquoi.
Ouais.
Sauf que là, justement, ils ont trouvé un espèce de workaround où la version physique va venir avec un code de download pour le soundtrack. Fait qu'elle va pouvoir être 10$ plus chère que la version digitale. Donc, elle va être au même prix en download que sur les autres plateformes.
Avec un soundtrack qui... À l'oreille, semble valoir la
différence. Ouais, ben, puis il me semble que si j'achète une copie physique, à cette heure, une copie physique, c'est un peu une version collector d'emblée. Donc, c'est pas une mauvaise idée de mettre.
Mais je trouve que c'est un beau précédent, je trouve, à établir. On va trouver une façon d'avoir un petit quelque chose de plus en version physique qui fait que tu peux mettre une différence. Là.
Ouais, c'est ça, pour justifier ce coût-là de production.
Est-ce que tu nous rappelles la date?
26 mai.
26 mai.
Ouais, mais ben pour toi, là, nous autres. Moi, j'achèterai pas sur PC. Là, je vais attendre la Switch. Là.
Ouais, même chose. Il est comme moi, non.
Ouais, allez, tout chier, j'ai un PS4.
On mérite pas! On mérite pas! On mérite pas! On est tout petit! On est à chier!
Et c'est le moment dans l'épisode qu'on prend pour remercier ceux qui daignent bien nous donner une coupe de piastres pour nous aider à couvrir nos dépenses, évidemment, via la plateforme Patreon. Fait que, ben, merci à tous ceux qui nous aide.
Merci pour votre screening.
Puis merci à ceux qui en donnent un peu plus que du screening aussi. Là. Aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, nous sommes le 15 mai. T'as-tu pas dit le 12 tantôt, toi?
Ça se peut.
On va pas être le 12 parce que le 12, c'était hier.
Bon, ben.
Dans la vraie vie, donc on enregistre.
Ouais, c'est ça.
C'est pour ça aussi,
ça date, j'ai fait les notes.
Effectivement, le 12 mai était la journée internationale des infirmières, puis c'est pour ça que je l'ai souligné avec la gang avec qui j'étais. J'étais comme de fuck.
J'étais juste pas toute là quand j'ai préparé mes notes. Mais on salue quand même les infirmières et les actrices porno qui jouent des infirmières.
Donc le 15 mai, je commençais en 1536. Anne Boleyn et son frère Lord Roquefort sont déclarés coupables d'adultère et d'inceste. Ils se sauveront alors à d'autres dragons pour aller fonder une colonie sur le continent de Westeros.
Je suis pas sûr.
De quel bout?
De quel bout?
Début ou la fin?
Je pense que c'est vrai, mais t'as juste changé les noms pour pas qu'on reconnaisse les personnages.
Ouais, je pense que oui. Sinon, on aurait des plaintes pis tout. 1889, ouverture au public de la Tour Eiffel. 16 mai 1889, premier incident où est-ce qu'il y a un épée qui a droppé une scène dans le haut de la Tour Eiffel pour voir ce que ça allait faire. 1986, sorti au Famicom d'un jeu auquel j'ai quand même pas mal joué dans ma jeunesse de
Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate.
Quand j'étudiais beaucoup d'émulation, là.
Oui.
Sacross, un jeu un peu étrange dans un setting futuriste où est-ce que tu te promènes avec une ado de moto, tu ramasses du monde, puis tu te bats contre des dinosaures robots qui lancent leur tête quand ils meurent. Là.
Hey, c'est la... J'ai le goût de jouer, là.
Mais c'est le fun.
Les tu robots, ramasses le monde genre tes embarques ou tu ramasses le monde non, quand tu ramasses le monde?
Non, embarques, genre. Là. Il y a des bonhommes bleus, c'est à Famicom. Là,
fait que c'était le jeu que tu nous présentais cette semaine.
Ouais, c'était mon segment en même temps. 1987, parlant de dinosaures robots. Là.
Ouais.
L'Union soviétique lance le prototype d'arme orbitale, oui, Polius. Le prototype n'a pas réussi à atteindre l'orbite de la planète. C'était une arme qui devait servir à détruire des satellites avec... voyons, comment on appelle ça déjà?
Which was in essence a sophisticated heat beam, which we called a laser.
C'est ça. Puis on a ici un extrait des tests là, qu'ils ont fait avant de le lancer. Là.
Ils ont quand même fait une importante série de tests.
Ben,
est-ce
oui.
que je peux entendre?
Je pense que c'est la fusée qu'ils ont moins testé. Parce que...
Happy birthday to you!
1859, naissance d'un homme qui voulait tellement être certain de jamais avoir d'enfant qu'il a décidé de faire des recherches là, avec sa femme sur les radiations, M. Pierre Curie, qui aurait aujourd'hui 148 ans là, si les radiations lui avaient donné comme les pouvoirs de Wolverine au lieu de juste le rendre malade finalement. Mais non, le pire, c'est qu'il est même pas mort d'un empoisonnement aux radiations. Il a glissé dans la rue puis s'est fait piétiner par un cheval.
Ouch!
Oui, ouch! puis en plus, il y a eu deux enfants.
On a ici un extrait audio de comment ça s'est produit.
C'est bon, il sonnait comme un vieux jeunesse.
On met dans ce temps-là, tu les enregistrements. Là.
En plus de ça, il y a eu deux enfants. Puis le monde, après ça, nous gosse avec les radiations de nos cellulaires. Là. Le gars de travail, il y a avec le radium, il y a deux enfants. Puis...
oui, c'est ça. Ouais. C'est pas dangereux, le nucléaire. Là.
Est-ce que l'histoire dit de quoi ses enfants ont l'air, par exemple?
Non, mais ils ont tous les deux gagné un prix Nobel. Que...
oh, mais c'est facile en esthétique de brasser un cher avec un petit bras dans le front.
Je pense qu'on a une interview avec ses enfants, par exemple.
Ah, ok, c'est ça. C'est au niveau des cordes vocales. Là,
ben, vas-y, mon petit clépeteur. Ouais.
Mais petite journée, dans le fond, j'aurais pu faire comme ce que Matt m'a proposé de faire, puis y aller avec des...
Don't be so overly dramatic about it, Chuck. What you're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains...
alternative facts?
Ouais, tu vas proposer d'inventer des choses. Puis je décide de pas faire ça, de rester court avec la vérité, puis de finir ça sur un dicton. À la Sainte Denise, le froid n'en fait plus à sa guise.
Je suis toujours tellement content à ce moment-là du show.
Blade of Steel.
Qu'est-ce que c'était, Pierre Curie?
À fin du drap.
À fin du drap.
Ah oui, oui, oui. Je cherchais, là. J'avais déjà tout oublié, ça, là. C'est ton...
Ça bien.
Ah ben, quand t'es arrivé à ton... ton proverbe, là, j'ai comme... J'ai des complètement décroché.
Ah, Denise.
Bon, il me semble que... Denise...
Et la Sainte Denise.
Ah, ce que t'as ordonné que j'avais vraiment blanqué. Bon, il me semble que ça fait longtemps, la dernière fois qu'on a fait une liste, t'sais, puis vu que nos ratings descendent sur BuzzFeed, je me suis dit... fait que, puis comme je cherchais une idée de quoi
genre
je pourrais vous parler.
J'ai fait une liste, en tout cas.
Bon, mais tu sais, encore une fois, tu dois avoir mis ton dicton après, puis j'ai arrêté de suivre. fait que je cherchais de quoi je pouvais vous parler, à part encore présenter un jeu. Fait que j'étais en train de jouer à Yoshi's Island en GBA, puis j'ai eu le droit d'entendre ça pour la 600e fois. Oh. Ah, vous allez souffrir avec moi. C'est le fun, hein? Ok, ça fait.
Tu mets en boucle ou c'est juste comme...
Non, je l'ai juste pris une petite bombe. Fait que ça, je voulais que vous partagiez ma douleur. Alors, j'ai décidé de vous parler, en fait, de faire une liste des personnages qui gossent en crise des jeux vidéo. La liste n'est présentée...
Ça va être un bon segment, on va avoir du fun.
Oui, c'est ça, si vous trouviez que j'étais à la merde des derniers épisodes, là, vous avez rien vu. Puis la liste n'est présentée dans aucun ordre particulier, là, parce qu'on s'en crise. Fait que bon, évidemment, on va commencer par le premier que je vous présente, qui est évidemment... Oh, Gazebo.
C'est impressionnant, ça veut dire que tu as eu beaucoup quand même d'étoiles quand tu l'as perdu pour qu'il braille longtemps de même.
Ah, j'ai trouvé sur YouTube. Ah. bon, évidemment, bébé Mario dans Yoshi's Island. Fait que là, Yoshi, là, il est bien chill avec sa gang de dinos dans le bois. T'sais. Puis il y a un bébé qui tombe dessus, puis il est pogné pour jouer à gardienne. Genre, ça part mal en maudit comme setup de jeu, là. Genre, te faire pitcher d'un bras une responsabilité.
Hey, ça ressemblait à ça la première fois que j'ai gardé ton kid.
Ah, ça ressemblait à...
Effectivement.
Ça où ça ressemble, c'est la prémisse d'une comédie douteuse des années 90. Oui,
c'est Three Guys...
Three Dinosaurs and a Baby.
And a Pizza Place. Parce que ça bon, prend comme...
Quelque j'allais dire And a Broom, mais...
Oui, c'est vrai. Aïe, aïe. Ou et une funéraille, là. Genre, c'est comme, tant comme des shit de même, c'est 80 au bout. Fait qu'en tout cas, hein, fait qu'à toutes les maudites fois que fucking bébé Mario tombe à terre parce que Yoshi est trop occupé à être badass, là, pis il sauve la vie, non-stop, une petite crise de bébé, il se met à brailler. Puis, tu sais, il ferme la gueule, c'est le seul incentif que t'as de besoin, là, pour le ramasser, là. Il n'y aurait pas tant de besoin d'un timer en haut de l'écran pour te motiver, là. Tu sais, je te le garantis, là. Mais ça avait-tu vraiment besoin d'être accompagné par un hostie de buzzer de réveil matin, là? Mais merci, hein, merci bébé Mario de gosser assez fort pour m'avoir motivé à faire une liste.
C'est bon que t'as trouvé un segment pour le pod, c'est pratique.
Ouais, c'est ce style-là. Fait que là, ben, j'ai pas le choix. Il y a une couple d'incontournables. Là, fait qu'on va commencer avec eux autres en vrac.
Hey, listen!
Navi, la petite fille tutoriel de Ocarina of Time. Parce que, tu sais, clairement, si tu joues à Zelda, t'as besoin de te faire dire que ça prend une clé pour ouvrir la porte barrée avec une grosse serrure dessus à toutes les fois que t'envoies une. Merci, Navi. C'est super utile.
Il y a ça de bien qu'à Breath of the Wild, le tutoriel, c'est un vieux schnock qui est juste là pendant l'intro.
Il est pas là longtemps, puis il tient pas trop par la main. Oh. Je donne quand même une mention honorable le hibou dans Ocarina of Time. Pour prendre la peine de t'expliquer en long et en large chaque petite crise de morceaux d'exposition dans le jeu. C'est important que l'histoire soit pas trop nuancée, qu'il n'y ait pas quelque chose que tu pourrais genre interpréter toi-même ou comprendre. Tu prends la peine à chaque fois qu'il te compte de quoi. En plus, comme, je le répète, l'option par défaut, c'est oui. Là. Faut que tu baisses ton curseur et que tu te dises non. Là. Merci.
Tu pitonnes B ou le pitonné A.
Ouais, c'est à ne pas sous-estimer dans Breath of the Wild la capacité de juste passer le texte avec le bouton B, fait qu'à la fin de la conversation, il default à goodbye puis il prend jamais d'autres. Ouais.
Alors ensuite. Lui, il y a un point bonus parce qu'à Star, ben, j'ai ça sur le soundboard du pod. Là. Mais le chien de Duck Hunt. Qu'une recherche sur la web Toronet m'a appris qu'il se nommait Stastila. Ça doit être en japonais. Je sais pas si ça vient. Dans le fond, là, c'est lui, c'est le troll original.
Ah oui, oui.
Il y a rien là, comme le feeling d'avoir 6 ans, de jouer à Duck Hunt avec la famille dans le salon qui regarde, puis de te faire bully virtuellement par Stastila. Puis qu'il n'y en a pas un esti qui me fait sa craque, qui n'a pas essayé de le tirer. Là. Hein? Ouais,
mais
ouais.
Combien de monde tu penses qu'on joue à Smash Brothers à la version Wii comme juste pour péter la gueule au chien de Duck Hunt là?
Mais c'est ça, c'est tout un accomplissement là. T'as tellement marqué le monde que tu t'es mérité une place dans le line-up de Smash sa Wii U, je crois.
Wii U?
À partir de la nouvelle version, je me trompe pas.
Ça se peut.
Si je ne m'abuse. Pas un joueur de Smash. Mais pour être honnête, là, je l'aime bien, ce style-là. Là. Et finalement, dans les incontournables gossants, ben il reste. On parle ici, bien sûr, de Sleepy Toad, la maudite grenouille pas capable de piloter un vaisseau dans Star Fox. Toujours dans le trouble. T'sais. Bon, honnêtement, j'ai pas autant de haine pour elle que pour Navi. Là. Mais il y a quand même un parallèle à faire entre les deux, par contre. Là.
Hey, listen! Wow! Help me!
C'est la même console. Ouais, hein?
Je pense que Nintendo s'est rendu compte que juste la petite pause après l'intersection était garantie de te taper ses nerfs. Là. Puis il l'utilise à excessivement bon escient. Bon, de mon côté, je pense que ça couvre les classiques. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez dropper avant que je tombe dans mes choix personnels?
Je confirme que c'était Wii U, mais aussi 3DS, pour ça que je voulais l'avoir joué.
Qui est la même version.
Ben, j'ai pas joué à Wii U.
Ah, d'accord. Pour le Duck Hunt dans Smash. Oui. D'accord.
Des incontournables, gossin, vite comme ça.
Personnage annoying.
En fait, j'avais pas grand chose à dire dessus parce que j'ai pas tant joué, mais il y a forcément Ashley dans Resident Evil 4, là, ouais, qui est comme la plaie de toutes les Escort Missions. Ou Natalia dans GoldenEye. Là,
qui est même... ça! La skills avant toi, ta shot. Ah, calé! Mais juste à vous,
Mais
en fait, toutes les escort missions.
Ben, c'est ça, je m'en dis, n'importe qui t'escorte dans un jeu devient.
On l'a déjà couvert avec toi il y a un très certain temps.
Ouais, c'est ça.
D'abord, je vais y aller avec. Raiden dans Metal Gear Solid 2. Tu sais, il faut se remettre en contexte, là. Au moment de la sortie de Metal Gear Solid 2, le premier jeu de la série est probablement mon jeu préféré de tous les temps à ce moment-là. Il n'y a jamais un jeu qui avait une histoire aussi bien construite, saturée d'informations d'un du monde réel, puis qui trace une histoire vraiment, vraiment fucking solide autour de ça, avec un niveau de détail qu'on n'a juste jamais vu dans un jeu. Là. Le nombre de fois que tu peux juste contacter quelqu'un via la radio et qu'il va te donner de l'information additionnelle, t'as vraiment l'impression que le monde est vivant. Puis que chacune de tes actions est celle que tu devais faire au niveau de comment les personnages vont réagir. Bref, le gameplay aussi était complètement différent de tout ce qui se faisait. Metal Gear Solid, le premier, c'est un chef-d'œuvre. Point. Puis là, Metal Gear Solid 2 arrive. On avait eu droit à un démo avant. On jouait un petit bout du jeu là, avec Solid Snake, bien sûr, sur un bateau. La hype était au fond. Là. Et puis là, le jeu complet arrive. Bon, on commence avec le même bout que le démo. Good. On continue la séquence, un peu plus longtemps que le démo, bien sûr. C'est impeccable. Et soudainement, on se retrouve à jouer un nouveau personnage. T'sais, on passe du vétéran aguerri qui se déplace avec soin, tranquillement. Puis là, on switch à un jeune entraîné en réalité virtuelle qui a des chicanes de coupe sa radio pendant une mission puis qui fait des flips comme un ninja. Ouais. Hein? Merci. Bon, OK, tu sais, je me suis dit, oh, c'est temporaire, c'est pour faire avancer l'histoire, tu sais, puis tu vas revenir jouer à Snake. Là. C'est intéressant comme idée, là. Fait qu'on va, je vais comme clencher cette boîte-là, là, puis il va revenir jouer à Snake, avec Snake. Hein. Non, mais c'est Raiden, pis c'est chicane de coupe jusqu'à la fin du jeu. Disappointed! Un petit peu. Fait qu'après le choc, honnêtement, par contre, là, après avoir fait le jeu une première fois, là, le gameplay du jeu est très, très, très solide, mais Raiden reste un petit chialeux, gossin. C'est tellement comme un clash. Je m'en vais jouer à Metal Gear Solid. Ah, oh, voilà le protagoniste le plus badass du gaming actuellement. Puis tu te ramasses avec le... Rose. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça?
Puis il n'y a pas un character development, là, la Luke Skywalker, qui fait que même si c'était un petit whiner au début, genre, tu te fais comme, OK, je commence à l'apprécier, là.
Non, mais en fait, sa situation, tu sais, c'est un personnage qui sert juste à présenter un point de vue, là. C'est, bon, on pourrait rentrer dans la philosophie des Metal Gear puis tout ça, mais il représente... Il représente la player agency. Il représente le fait que quand tu joues à un jeu, tu prends des décisions, mais t'es juste quelqu'un qui joue à des jeux. Ça fait que toute cette perspective-là qui est projetée sur le personnage, ça en fait pas un protagoniste intéressant pour autant. OK? Fait que, il gosse. Raiden, il gosse.
Fait que c'est un tour.
Ouais, exactement.
Dans tous les sens du terme.
Et pour mon finalement, en fait, mon deuxième choix personnel, je vais y aller avec Mr. Resetti, la taupe d'Animal Crossing. Ouais.
On a ici une face vide de toute reconnaissance.
Non, mais je sais de qui on parle, j'ai pas assez joué pour qu'il m'aille.
Le rôle de cette taupe-là, c'est d'assurer que les enfants soient complètement traumatisés s'ils ont éteint le jeu sans avoir sauvé leur game, puis qu'ils leur feront plus jamais.
Ah ouais.
Fait qu'avec la nature du jeu d'Animal Crossing, c'est important que le progrès soit permanent. Parce que, tu sais, bon, ça se passe.
Mais lui, c'est ta game parce que t'as fait un choix que t'es pas d'accord, ça devient.
Ouais, mais tu n'as pas tant de choix. T'as jeté un gosse. Mais bref, c'est l'idée que c'est en temps réel. Les heures du jeu se passent. Fait que bon, c'est l'idée que c'est réel. Fait que si tu sauves pas ta game, tu détruis cette illusion-là que le jeu nourrit. Fait que la meilleure méthode que Nintendo a trouvée là, pour faire ça, hein, c'est d'envoyer un personnage qui te parle pendant une éternité. Pis sérieux, là.
Ah, c'est
une
long,
éternité, là. C'est plusieurs minutes de pages de texte, là.
Puis on s'entend avec... Y a-tu le son de...
Ouais, en fait, le son, c'était pas tout à fait ça, là. C'était plus comme... Ouais, fait que bref, des pages de texte. Parce que si j'ai dû éteindre ma console trop rapidement ou que j'ai manqué de courant, là...
Ouais, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Là. La seule fois que je l'ai vu, c'est parce qu'il y a une panne de courant. Là. Tabarnak! Là, tu le repars, puis hey, donne-moi pas de la merde!
Puis ça vous permet d'aller jusqu'à te faire écrire une lettre d'excuse avec le on-screen keyboard, ce qui est en soi une torture pire que du waterboarding, là.
Je ferais pas ça à mes élèves.
Je veux parler! Je m'excuse, monsieur Resetti! Touchez-moi pas là. OK. mais bon, pour. Fait que Nintendo, hein, ils ont décidé d'investir dans une taupe qui t'insulte, là, ouvertement. Puis, comme j'ai pu lire en faisant mes recherches pour ce segment, a vraiment troublé bien des kids qui pensaient que M. Resetti pouvait vraiment savoir ce que le joueur faisait quand que le jeu était éteint, quand t'étais un kid, tu sais. Fait que sur le forum de supercheats.com en 2006, on pouvait lire des témoignages touchants tels que Twilight Prince qui sauve en disant. Yeah, me too. I hate him.
C'est profond.
Et Crazy Al qui refoule ses larmes pour écrire I hate him. He takes up 15 minutes of valuable time. Et Speedy qui prend une pause de sa thérapie pour nous partager One time I've been playing for 2 hours, power goes off. It was not my fault. That sucks. Donc, on peut voir là, toutes ses vies brisées. Là. Écoute, si ça, ça n'arrive pas à vous convaincre du mal qu'il a pu faire, je sais pas ce qu'il réussirait. Mais tu sais, j'ai dit ça de même. Là. Nintendo, ça vous tentait pas de faire des autosaves de temps en temps là, au lieu de traumatiser une génération au complet? Là. Bon, c'est sûr que c'est quand même déjà un peu fucké de jouer Animal Crossing là, que de se faire engueuler par une taupe virtuelle, c'est probablement moins plate que d'aller livrer des bouts de tapisserie en échange d'un chapeau. Là. Tu passes anyway 90% de ton crise de temps à faire. Là. Mais bon, pour son rôle de bonhomme 7 heures virtuel, Mr. Resetti se mérite mauditement le dernier spot de cette liste.
Mais la réutilisation entre guillemets, de Mr. Resetti dans la piste de Animal Crossing de Mario Kart 8 est quand même nice. Là.
Comme ça, tu peux y crisser une carapace d'en face.
Ben, je te le conseille pas parce qu'elle va y rebondir dessus puis te pogner toi. Là.
Word it.
Parce qu'il sort du chemin avec une place puis il est vraiment comme... Pissed off, là.
Mais il fait mieux que ça dans Smash.
Ah oui.
Il se met à écrire du texte à l'écran, comme pour te taper ses nerfs, mais ça prend quasiment la moitié du haut de l'écran, fait que tu vois rien.
Ouais, c'est dans les genre de petites capsules là, que tu prends.
Puis il commence à parler, là, puis il lâche comme ah, il faudrait pas que tu resets le jeu. Ah, oh, t'as jamais rien resetté dans ta vie. Ah, oh, oh, ben moi c'est Monsieur Resetti, puis ah, oh, tu trouves que je dérange,
mais. Mais ça, c'est un beau clin d'œil.
Ouais, oui, c'est super.
Mais c'est cool à part de Nintendo de reconnaître leurs erreurs ou de reconnaître les personnages ou le moment les moins glorieux, disons. Pis...
Ben, je pense pas qu'ils le voient comme un problème parce qu'ils ont comme, tu sais là, segment joke à part, Monsieur Resetti injecte de la personnalité à quelque chose qu'il faut que tu gères. T'sais, on s'entend, là, les save games dans Animal Crossing, ils devaient juste comme mettre un flag quand tu l'ouvres. Puis là, quand tu repartais à la game, si le flag t'es pas fermé, ben oups, t'as pas sauvé ta game quand t'as joué. Puis là, c'est comme, ouais, ben, c'est parce que ça brise le flow du jeu, le monde s'en rendront pas compte, ça va être un gros problème. Bon, mais on pourrait peut-être intégrer ça dans le jeu. T'sais. Puis il y a plusieurs speeches qu'il peut avoir, M. Resetti. Il y a même un autre taupe qui peut venir parler, oh, ouais. Qui parle que là, genre, il est hors de lui, là, tu sais, je sais pas ce qu'il va faire. Puis,
il parle de l'autre.
Il parle de M. Resetti. Tu sais, il fait partie de l'univers. Fait que, tu sais, c'est honnêtement une belle solution. Il aurait peut-être pu faire autrement, mais il est là. C'est un peu comme le
jeu. Ouais, un peu plus court, surtout, là. C'est sûr que ça devient bien.
Ouais, ça fait partie de la joke, là.
Sauf que Nintendo sont au courant de l'opinion ou de comment les gens parlent. Puis dans des jeux comme Super Smash, ben, ils vont ramener le chien. Ils vont ramener. Ouais. T'sais...
C'est ça, t'sais, le chien, il est juste légendaire à cause.
J'étais impressionné que Navi a pas été encore comme dans Smash pour gosser. Je sais pas, mais t'sais, moi, j'aime quand même bien Smash. Puis je pense que. Côté party game, là, sur la Switch, quand il va en avoir un, il va sortir un moment donné, des grosses chances que je l'achète. Là.
Ben, ouais, on dérape complètement, là, mais why not? Là? Non, il n'y a pas de trouble. Mais c'est comme, j'ai manqué Mario Kart 8, puis il y a du monde qui me disent « Ah, t'es tellement chanceux de ne pas avoir joué Mario Kart 8 sur Wii U, de pouvoir arriver fresh, puis de vivre ça pour la première fois sur la Switch. » Le monde est vraiment comme borderline jaloux. Là. C'est comme, c'est tellement un bon jeu. Puis Smash, je sais aussi que c'est des bons jeux, mais j'ai tellement peu joué. Fait que je vais pouvoir faire ça quand ils vont nous sortir l'inévitable remaster du dernier Smash sans Switch. Ouais. Là.
Ben là, vraiment, ils vont refaire même un nouveau problème parce qu'ils ont déjà deux versions de l'autre Smash d'avant.
D'après moi, en tout cas, on s'en reparle, mais je serais surpris s'il y a E3 le mois prochain, on n'a pas le droit au remaster parce que la Wii U n'a pas vendu.
Ouais, je
fait que puis en fait
en même temps c'est Smash, ils ont un petit jeu pareil là, fait que qui soit un nouveau ou un remaster.
Ouais, mais c'est un jeu de fighting, ça demande beaucoup de tweaking pour qu'il soit
ce que je veux dire par là, c'est que chaque édition de Smash, c'est un remaster de l'autre d'avant.
Oui, mais non. C'est ça, il y a quand même beaucoup de balancing quand tu rajoutes des personnages, puis quand tu changes les skills, ça demande de tout rebalancer le jeu. T'sais.
Puis d'avoir une version du jeu qui n'a pas vécu sa vie.
En plus.
Comme était censé le line, mais tu
l'as pris. Puis c'est la première version aussi qu'ils ont vraiment construit dans un but d'être compétitif, qui est vraiment tweaké au maximum pour pas qu'il y ait de personnages qui soient comme si problématiques. Il y a des fans qui diront qu'il y a des personnages brisés, puis tout. Mais elle a vraiment été faite en connaissance du fait que le competitive gaming existe pour Smash. Fait que c'est pas la. C'est quand même un gros effort de développer un jeu de combat. Fait que je serais surpris. Je serais surpris.
Et puis de toute façon, Mario Kart nous montre qu'il y a certains jeux qui peuvent avoir une deuxième vie sur la Switch.
Ouais, mais c'est comme c'est décevant un petit peu. Pareil, comme, mettons, moi je suis content de l'avoir acheté, mais j'aurais aimé ça avoir une couple de pistes de plus. T'sais. Il y en a en tabarnak, là. C'est toutes des pistes que j'ai jouées beaucoup déjà. Parce que j'ai joué beaucoup à la Wii U. Mm-hmm. Fait que je suis comme, quelques-unes de plus, j'aurais été content. Puis juste ça, là, tu reprends le 8 de luxe, tu me rajoutes comme. Deux copes de quatre pistes, là, puis moi, je suis aux anges. Là,
bon, je pense que ça aurait pu être... Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on parlait, mais je pense que ça aurait beaucoup de sens. Il aurait vraiment dû faire ça. C'est beau d'avoir tout packagé, ils ont rajouté le battle mode, ils ont rajouté les personnages. une couple de pistes, s'il vous plaît, là, parce que je m'attends pas à ce qu'on ait un autre Mario Kart dans les prochaines années. Là. Ça va être 2-3 ans facile s'il décide d'en faire.
À moins qu'il drop en DLC éventuellement, là, je pourrais comprendre. Je trouverais ça plate parce que là, ça demanderait encore de,
De
sortir
payer.
Le portefeuille. Mais,
Mais je préférerais qu'on parle de Mario Kart pour revenir dans le thème et dire que la coquille bleue, je vais la faire comme un personnage qui est vraiment dérangeant.
Ah, merci, Jeff, de trouver un lien.
La coquille bleue qu'on appelle aussi la Friendship Destroyer.
De son petit nom.
Mais surtout quand elle vient avec sa gang, tu sais, la coquille rouge en arrière, puis l'autre coquille rouge en arrière, puis après ça, l'éclair, puis après ça, le gars qui te dépasse avec une étoile. Puis là,
puis là tu te crisses en bas d'un pont, puis là, faut t'attendre de te faire ramasser par l'Akitu.
Oui, c'est... il est rapide. Pour vrai, c'est pas long, l'Akitu dans celle-là.
Ouais, il a, des... il a pas toujours été efficace dans le passé.
Non, il est pas frustrant, mais bon. On se éloigne encore du sujet.
Mais non, on est encore frustré. C'est quand même, c'est correct. C'est correct.
Sur la semaine.
C'est pas facile de faire dire réflexion, hein? Que tu
non, on a essayé, mais c'est pas ça.
T'as pris des années de pratique.
Et voilà. C'est pas facile d'apprendre à parler, hein?
Donc, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Hein? Donc, cette semaine,
oui.
Tu peux le garder, mais pas trop loin. Cette semaine, il y a un événement particulier puis particulièrement dérangeant que j'ai trouvé intéressant puis qui m'a motivé à parler cette semaine de la satire politique, en fait. Parce que chez nos voisins du Sud, ces chers Américains, pour la première fois de l'histoire des États-Unis, il y a un président qui s'est adressé directement, qui a adressé directement et publiquement les propos d'un comédien, qui était Stephen Colbert, suite à un monologue particulièrement virulent de la part de M. Colbert. En fait, le président Trump, il s'en est pris à sa crédibilité, à la popularité de son talk show, dans une conférence de presse. Donc, on a directement l'homme le plus puissant du monde à attaquer directement un comédien sur un TV show.
Mais non, mais mettons, je te laisse continuer, mais mettons, là, entre Colbert puis Trump, là, celui que la crédibilité a mangé une taloche avec ce speech-là, c'est pas Colbert, là.
Ouais, on en parle.
Allons-y.
Donc, c'est la première fois qu'un numéro de satire politique fait réagir de la sorte le président des États-Unis. On en écoute un extrait, malheureusement en anglais, mais on l'écoute quand même. Okay.
Ah non,
c'est la réponse.
excuse.
Now, John Dickerson has way too much dignity to trade insults with the President of the United States to his face. But I, sir, am no John Dickerson. And when you... Okay? All right? Let me introduce you to something we call the Tiffany Way. When you insult one member of the CBS family, you insult us all. Bazinga. All right? Here we go. All right? Oh, get the gloves off. Mr. Trump, your presidency, I love your presidency. I call it disgrace the nation. You're not the POTUS. You're the bloatus. You're the glutton with the button. You're a regular gorge Washington. You're the president, but you're turning into a real pricktator. Sir, you attract more skinheads than free Rogaine. You have more people marching against you than cancer. You talk like a sign language gorilla who got hit in the head. In fact, the only thing your mouth is good for is being Vladimir Putin's holster. You're presidential library. Your presidential library. Your presidential library is going to be a kids' menu in a couple of Jugs magazine. The only thing smaller than your hands is your tax returns. And you can take that any way you want. We got a great show for you tonight.
Donc, je propose de faire de Stephen Colbert un membre honoraire de Divan Quest pour ce magnifique bijou. The only thing your mouth is good for is being Vladimir Putin cuckolder.
Ah, c'est ça qu'il a dit, je savais pas, il était bipé.
Maudite censure, on manque plein de bouts.
Donc, c'est quand même assez virulent. Puis pour vous mettre en contexte, ça s'est déroulé après que un des collègues de Colbert a eu une entrevue one-on-one avec le président des États-Unis et qui s'appelle Face the Nation. C'est le nom de son segment. Et pendant l'entrevue, Trump affirme « J'écoute ton segment régulièrement », sauf que moi, je l'appelle « Deface the Nation ».
Donc,
et là, c'est insulte après insulte et après insulte. L'autre n'a pas réagi, il a gardé le silence. Colbert, lui,
ouais,
a décidé de vocaliser. Colbert a décidé de... Colbert a
décidé de... Si on l'accepte sur le podcast, on le naturalise.
On le naturalise.
C'est Stéphane Colbert.
Colbert. Donc, que Colbert étant atteint l'ego de Trump avec son monologue, mais pour moi, c'est une victoire de la satire, mais c'est une victoire qui goûte étonnamment amère, en fait. Je m'explique, puis pour m'expliquer, il faut commencer par définir c'est quoi la satire, en fait. La satire, c'est utiliser l'humour, l'ironie, l'exagération ou le ridicule pour exposer puis critiquer la stupidité, les vices ou la folie des gens.
Je pense que c'était un homme, mi-homme, mi-chèvre.
Ah non, c'est... satire!
Presque. Non, mais qui vont être particulièrement utilisés dans un contexte politique. Dans les dernières années, parce que j'ai beaucoup l'impression que la satire perdait de son mordant un petit peu. Là. On pense à SNL qui était devenu plutôt juste... On faisait des gags, on en riait, mais dérangeait pas, c'était rendu...
Il était pas si critique.
Il était très peu critique, puis on dérangeait pas. C'était une suite de blagues, c'était drôle, on pouvait passer le temps, mais le message était très, très peu politisé. Probablement causé, en fait, par le statu quo politique, où on a longtemps été dans un... où personne voulait faire de moves déplacés, tout le monde... Si la Russie faisait quelque chose, on va y mettre des sanctions, mais il n'y a pas personne qui fait... Personne qui criait fort, personne qui mettait son poing sur la table puis qui se fâchait, fait que ça faisait pas de vague. En plus d'avoir des politiciens modérés, un peu comme Barack Obama, qui laissaient moins de place à des phrases médiatiques, puis ça nourrissait peu la flamme satirique des humoristes et des journalistes. Donc finalement, hashtag boring. mais il y a eu un renouveau dans le climat politique dans les dernières années, entre autres parce que les partis politiques ont changé depuis un an, deux ans, trois ans. La politique, c'est plus comme c'était. Là, tout du coup, si on parle d'une politique de faits alternatifs, où tout d'un coup, on fait de la politique qui va être basée sur des émotions puis pas sur des faits. On a tout entendu quand on dit les politiciens qui disaient le niveau de criminalité augmente. Mais les experts font c'est pas vrai. Non, le niveau de criminalité augmente. C'est pas vrai. Non, mais en fait, les gens ont l'impression que le niveau de criminalité augmente. Puis c'est ça qui compte. Puis c'est ça qui est important. C'est là-dessus que je vais faire mon message politique et ma campagne.
C'est terrible. T'sais, la semaine passée, il y a deux semaines, à la soirée d'Encore Jeune, il y avait Daltel qui était là.
Oui.
Puis qui dit genre, c'est ça, le monde ont bâché sur les conservateurs, puis il est rendu conservateur. quand on était au gouvernement, en disant qu'on n'était pas écologiste, puis le taux de CO2 a baissé en Alberta de 18% depuis que, dans le fond, pendant le règne de Harper. Puis là, genre, ils sont comme, t'es sûr? Parce que c'est weird un peu, tu sais, Fred Savard qui pompe une miette, mais tu sais,
il n'y a pas les chiffres pour. Hein?
Mais pendant, ça a pris deux minutes qu'il y avait un journaliste de Devoir, un journaliste comme écolo, dans le fond, du Devoir, pas écolo, mais environnemental du Devoir, qui écrit, pendant cette période-là, ça a augmenté de 18%, tu sais. L'autre, Austin, c'est pas ça les chiffres que j'ai vus, puis non. Puis là, ils ont fini par avoir un retour, genre, la semaine après. Ouais, dans le fond, c'est parce qu'au au Québec, ils ont baissé de 10%, puis en Alberta. Chris, c'est parce que tes chiffres, là, c'est pas interchangeable.
Dans le discours politique, les faits sont rendus alternatifs finalement. Ce qui est plus important, c'est faire réagir, c'est d'aller chercher les émotions puis de générer des réactions. Les réseaux sociaux ont changé aussi notre vision de la politique. On se retrouve avec la politique qui devient un culte de la personnalité. Les chefs politiques sont plus grands que les idées de leur parti.
Ils sont directement actifs sur les médias sociaux, de
plus en plus. Puis tu peux pas. Mais tu peux pas te dire militant d'un parti sans être une groupie de chefs de parti. Hein? Tu peux pas te dire libéral au Canada, mais dire mais j'aime pas Justin Trudeau. Non, ça va avec. Sinon, va pas militer, tu seras pas accueilli, puis on va te traiter comme si t'étais l'ennemi. Même chose, on parle avec Trump. Les gens sortaient dans les rues pour défendre Trump, mais pas ses idées. C'était le personnage. On avait un culte qui était voué à un toupette orange.
un Cheetos enragé.
Cheetos enragé. On a aussi récemment assisté à un petit peu la fin des politiciens de carrière. Parce que de plus en plus, des personnes qui sont élues, c'est des candidats qui ressemblent le moins possible à un politicien d'antan. T'sais. On n'a plus des gens qui vont avoir des idées, qui vont avoir des messages, qui vont avoir des rêves. On se retrouve avec des candidats qui se créent des personnalités qui vont être plus grandes que nature, puis qui vont se donner en spectacle pendant toute leur campagne Parce que c'est ça qui...
On a une objection ici.
Mais en même temps, c'est des politiciens de carrière plus que les anciens politiciens parce qu'ils n'ont absolument rien comme, comme bagage qui leur donne comme...
Oui, c'est un politicien de connaissance.
Ils deviennent des politiciens de carrière parce qu'ils ont une carrière politique, mais basé sur absolument rien. Quand tu regardes les gouvernements des années 80, mm-hmm. puis ben, le ministre de la Justice, c'était un ex-criminologue. Puis le ministre des Transports, il avait comme c'était un urbaniste. Puis le ministre de la, bon, le ministre de la Santé, un médecin, mais c'est pas, tous les autres ministres n'étaient pas des médecins aussi. Tu sais.
Moi, j'aime bien la nuance de dire ils ont été formés pour être en politique, on va les sacrer dans n'importe quel siège parce que c'est du monde de politique.
Ça, c'est comme
expert,
le gars qui rêve d'avoir une personne au ministère de l'Éducation qui vient du milieu de l'éducation. Là. Ouais, qui passera jamais.
C'est tellement weird comme idée, voyons donc.
Mais moi, ce que je parle, c'est les personnages qui se créent autour de ça. Oh, oui, on pense à Trump, qui est clairement un personnage. Il y a une game qui est jouée. On pense même à Justin Trudeau, qui se positionne comme un sauveur, comme un ami des jeunes et tout ça, qui va jouer une game. On pense à Boris Johnson en Angleterre, qui faisait clairement des efforts pour se dépeigner, pour avoir l'air tout ébouriffé quand il arrivait devant la caméra. Tu le vois que c'est fake. C'est clair qu'il y a des efforts qui sont mis dans cette image-là. Combien de gens ont suivi Trump parce qu'il n'était pas sous l'emprise de l'establishment? Parce que c'est le message qu'il transportait. Il est sous l'emprise. C'est lui, l'establishment.
C'est voilà.
Il n'y a pas de tort. Il n'est pas sous l'emprise.
Puis combien de gens ont voté pour Justin Trudeau parce qu'il était donc bien beau puis il était jeune?
Sympathique et approchable.
J'ai vu des gens en Égypte quand j'allais là-bas avec des photos de Justin Trudeau comme wallpaper sur le téléphone cellulaire. C'est probablement pas pour ses idées avant-gardistes. Là. C'était pour sa belle gueule. Donc, on est loin de... Tu sais, quand je dis politique de carrière, mais c'est... des politiques qui n'ont pas de fond. Puis là, ajoutant à ça, la spontanéité, qui frise l'indiscipline pour laquelle Trump est connu ces temps-ci, les talk shows de fin de soirée aux États-Unis, ils ont quotidiennement le monologue tout cuit dans le bec, tout
facile,
est donné.
Leur job est rendu facile.
Mais ils ne parlent que de ça, parce qu'il y a des frasques à tous les jours, il y a des scandales à tous les jours. Les codes d'écoute des shows comme celui de Stephen Colbert ou de Trevor Noah, ils ont constaté une hausse là, récemment, parce qu'ils ont tout d'un coup un sujet intéressant, puis les gens vont vers ce sujet-là, puis ils s'abreuvent de ces discours-là, puis des monologues, puis des blagues, puis justement de voir Colbert qui insulte le président des États-Unis live à la télé, ça prend de un peu de crédibilité de la part du président, puis ça demande du front de la part d'un comédien.
Faut que tu saches que la population comme
ouais, mais c'est ça,
s'entorche assez parce que
le climat est parfait, tout le monde est comme
exactement.
Tout ce qui est public, tout le monde qui sont dans les médias, dans les arts, etc., comme quand il y a des gouvernements qui sont habituellement plus à droite, là, il y a comme une entente où est-ce que c'est comme on l'aime pas. Là, il est particulièrement grave, mais on voit la même chose au Québec. Là.
Mais la différence, elle est que c'est beaucoup plus rare au Québec que les gens vont s'attaquer à la personne autant que ça. Puis c'est même pas une question, je pense.
Jean Charest.
Ouais, mais quand ça s'était rendu après genre 10 ans de n'importe quoi.
Ouais,
parce qu'au départ, les gens vont s'attaquer aux idées, puis le personnage a devenu une caricature à un moment donné quand ça fait comme. Tu sais, quand ça fait 10 ans que t'es là, puis que tu te fous de tout le monde, puis tu sais, je te dirais que niaiser l'image de Charest, puis tout ça, à part dans les caricatures, parce qu'une caricature, c'est une caricature, c'était la fin, là, quand c'était comme il était rendu n'importe quoi, puis il se foutait de tout. Tandis que Trump, ça fait pas 6 mois. Là.
Sauf que c'est pas d'hier qui est dans l'œil du public. C'est clair. On savait exactement c'était qui.
Ça démontre bien un peu le manque de sérieux que la politique peut présenter.
Tu peux pas régler ses idées,
puis
pas.
En plus, tu prends. Quand tu prends en plus un président comme Trump qui est vraiment actif sur les réseaux sociaux, mais là, on a un genre de drôle d'interaction où il y a une interaction directe entre le président, puis les humoristes, les comédiens, puis là, il y a un échange qui se passe directement à tous les jours. On passe pas par de communiqué de presse, il n'y a pas d'expert qui va dire « tu devrais pas dire ça », c'est direct, c'est brut.
Il y a une entente non écrite où t'es au pouvoir, un moment donné, t'es pas censé te faire sentir au monde que t'as littéralement du pouvoir sur eux autres. Tandis que là, il fait littéralement ça. Il est comme la personne la plus puissante au pays, puis il prend ce poids-là pour attaquer du monde. Tu peux pas faire ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis le monde devrait pas célébrer ça ou accepter ça.
Ouais.
C'est quelque chose.
Ouais, mais le fait qu'elle réagit comme ça, parce qu'il a répondu, Colbert, dans un show cette semaine.
Évidemment.
Après cette réplique du président Trump, ouais, Colbert, il a répondu. En fait, il manquait, on n'entend pas bien, mais on entend son nom à Colbert dans le Lululu.
Le Colbert.
Ouais. Fait, le président des États-Unis a nommé un comédien en attaquant son show. Ouais. Puis là, après ça, Colbert, dans son monologue, le lendemain, il est mort de rire. Puis il dit, quoi, vous avez pas compris, là? Il dit, c'est du show business. Tout ce qu'on fait, c'est du show business. Puis si vous saviez depuis combien de semaines je fais des efforts pour que vous mentionniez mon nom, Monsieur le Président, puis vous l'avez fait, il dit « I win, j'ai gagné ».
Mais oui, c'est clair. On devrait peut-être tweeter à Trump d'un coup qui s'attaquerait à Divan Quest après ça.
Sacrifice. On ferait bien les codes d'écoute, c'est incroyable. On les vu. Hey,
on aurait 10-12 personnes de plus, ça serait malade.
Donc, dans tout ce milieu-là où la satire gagne la popularité, grandit, puis c'est de plus en plus présent, et moi je trouve qu'il y a un problème majeur avec la satire. C'est qu'on s'intéresse de plus en plus, en tant que citoyen, à rire de la politique, qu'elle la politique elle-même. On est devenu tellement blasé, c'est comme si c'était devenu impossible de croire un politicien. Notre réaction par défaut, c'est devenu de douter de tout ce qui est dit, de banaliser, sans prendre au sérieux les idées ou les promesses politiques. Dans un contexte comme ça, c'est vraiment surprenant que tous les politiciens abandonnent une promesse électorale.
Ouais, si on tombe dans la poule et l'œuf, là, parce que pourquoi est-ce qu'on est rendu cynique de même? C'est parce que les promesses sont jamais remplies.
Je dis pas le contraire.
Sauf que quelqu'un qui arriverait d'un point de vue parfaitement honnête, tu serais quand même pas croire.
Je suis d'accord.
Exactement. Puis on a perdu tellement foi, en fait, dans la valeur de nos politiciens qu'on en va jusqu'à perdre foi en l'action du vote puis d'aller voter. T'sais, on n'a plus l'impression que l'action d'aller voter va avoir des conséquences réelles. Puis selon moi, c'est probablement un des plus grands mal de notre génération, là. C'est que les gens ont perdu la foi en cette puissance-là qu'on a en tant que citoyen. On a perdu le sens des conséquences qui sont rattachées à nos votes. On a oublié c'est que quand je vote pour quelqu'un puis je l'élis, ben après ça, il faut que je vive avec pendant une période de temps. Il va être là. Et le fameux...
Mais c'est parce qu'on a présentement un système électoral qui fait que, moi, mon vote, là, il ne sert pas à faire élire personne.
Je sais.
Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est ça aussi. Je dis pas que t'as pas raison, mais je dis qu'il y a beaucoup d'aspects qui nous amènent à où est-ce qu'on est là. T'sais.
Ça, c'est vrai, t'as totalement raison. Il n'y a pas une réponse simple à
non,
ça.
Non, c'est ça.
Sauf que quand on voit des gens, je reprends aux États-Unis, qui vont dire « Moi, je vais voter Trump juste pour faire bouger les choses parce qu'il faut que ça change. » Ben, maintenant, le clown vit avec. Là.
Ouais.
Tu l'as élu, puis là, c'est comme « Ah, je suis pas content. » D'ailleurs, il y a des cotes de popularité qui sont le plus bas. C'est un gouffre historique pour un président. Puis là, les gens demandent sa démission, mais les gens l'ont élu.
C'est non seulement un gouffre historique pour un président, mais c'est un gouffre historique comme président. Parce que clairement, c'est un trou de cul.
C'est un gouffre.
Ouais. Et voilà.
Mais tu sais, dans le fond, en vérité, je pense que les gens ont encore le désir d'avoir une vraie conversation sur la politique. Je pense que les gens, puis beaucoup de jeunes, ils ont encore envie de s'intéresser à la politique puis à toutes les conséquences de ces choix-là. Mais oui, on le voit, il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent de plus en plus en politique ici au Québec. Mais dans notre frustration avec les politiciens qui ne semblent pas être de confiance, qui abandonnent leurs promesses ou qui sont soupçonnés de corruption, mais trop souvent, la majorité de la population va se tourner vers des médiums, on va dire alternatifs, pour avoir ces conversations-là. Je ne peux pas avoir une conversation politique avec mes politiciens, je vais aller la chercher auprès des humoristes, auprès des comédiens qui vont faire de la satire. Puis ça venait combler un vide un petit peu.
Mais ça montre un autre mal, par contre. C'est que le monde aime donc ça se faire dire quoi penser aussi, même si ça
vient de l'humoriste. Puis c'est un des problèmes majeurs avec la satire. C'est que quand la satire, ça devient ton seul contact avec la politique, ben tu changes une pièce pour 40 sous. Là. C'est comme de dire, il faut que je slack le McDo, je vais aller chez Burger King ou chez Wendy's. T'apprends rien, tu te développes pas.
T'as-tu faim, Jeff?
On a-tu des redevances pour ça?
Non, mais je pense que l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on fait, c'est pas nécessairement nous, mais il y a beaucoup de gens qui vont penser que les gens qui font de la satire ou de l'humour politisé vont changer la perception de la population. C'est pas avec des jokes qu'on change une société, mais c'est avec une population éduquée qui est capable de faire des choix éclairés.
Mais est-ce que là, le problème vient de la satire, parce que la satire a toujours existé?
Elle a sa place. Non, elle a sa place.
Puis je pense pas qu'eux autres essaient de faire changer les choses.
C'est juste pas leur mandat. C'est
pas leur mandat. Sauf que c'est... Je pense pas qu'il y en a qui définissent ça comme leur mandat.
Exact.
Non, le problème vient du fait qu'il y a du monde qui.
C'est qu'ils se font donner ce mandat-là par le monde qui les écoute.
Fait que tu sais, la satire, elle a définitivement sa place là, dans le paysage politique, puis encore plus actuellement que jamais, là, en fait. Là.
C'est fou du roi du Moyen-Âge.
Oui, mais en tant que citoyen, je pense qu'on doit apprendre à se renseigner, on doit apprendre à questionner les faits, il faut être capable de tirer nos propres conclusions, parce que, dans le fond, la possibilité pour nous de changer les choses, ça passe seulement une fois aux 4 ans. C'est au moment des élections, puis c'est une décision qui est importante, qui est lourde de conséquences, puis il faut la prendre sur des informations réelles, puis en sachant où on s'en va, puis ce que ça va impliquer. Fait que je pense qu'il est peut-être temps de rappeler qu'ultimement, si on prenait un petit peu au sérieux notre voix, on aurait peut-être plus de pouvoir qu'on le pense.
You
Piu-piu-piu-piu. Je vais faire un... fais de l'écho.
Ouais, voilà.
Reverb.
Cette semaine, ça aura été un moment marquant de ma vie de gamer. Je le dis tout de suite. Cette semaine, ben, ça marque un moment où est-ce que j'ai pris une grande décision. J'ai décidé d'accrocher mon clavier mécanique et ma souris à 18 boutons. J'arrête de raider.
Oh non!
Oh!
Ouais.
Ça va?
Oui, ça, j'ai écouté 13 Reasons Why. Là,
mais oui, c'est ça! C'est pas drôle.
Pas drôle.
Si vous connectez dans vos accounts de WoW, vous avez toute une lettre dans votre boîte aux lettres.
C'est quoi l'équivalent WoW d'un tape? Genre? Ça doit être un tape, parce que dans WoW, c'est ça. Ouais, ils sont capables.
Un tape avec la petite boucane, un peu cyberpunk. Là.
Un tape cassette à vapeur.
J'ai créé 13 sidequests.
Ah, c'est comme on va prendre un show qui fait plein de discussions super sérieuses sur le suicide des adolescents, pour faire des jokes de bas étage de steampunk.
C'est correct qu'hier, j'ai fait une joke de toast au beurre noir en parlant de...
Oui, mais c'est pas parce que t'as fait une joke qui a pas d'allure hier qu'on est obligé d'en faire. C'est ça son argument, jusqu'à...
Ok, ça doit faire que ça fait quasiment 2 ans qu'on fait des jokes pas d'allure sur le podcast.
Touché.
Ouais, ben j'ai encore envie de jouer. C'est pas, le problème n'est pas là, mais l'idée d'avoir une plage horaire réservée pour quelque chose me dérange de plus en plus. Puis, tu sais, je vis pas dans un monde magique de licorne là, où est-ce que le reste de la planète se synchronise sur mon horaire à moi. Fait que, ben, je peux pas prendre la décision, genre, de juste... Tu sais, je peux pas faire autre chose que de prendre la décision de juste mettre ça de côté. J'avoue quand même que ça me fait un petit quelque chose, tu sais, quand je pense que j'ai pas vraiment arrêté de raider, en tout cas pas par choix, genre, depuis mes débuts à War, là. Quand je raidais Ulduar, là, pour ceux que ça dit okay. Quelque chose.
Ouais, ouais.
Mais,
Ben oui.
Mais en fait,
je me rappelle. Là.
Pour ceux à qui ça ne dit pas quelque chose, j'ai comme une je suis allé faire des petites vérifications.
OK.
Fait que, comme je vous dis, j'arrête de raider avec mon, dans le fond, dans mon MMO favori, puis avec ma team de raid. Là,
Rectify! Fait que c'est la dernière fois qu'on a le droit à ce drop-là.
Possiblement, mais tu sais, ça se peut bien que ça revienne pour pas de raison.
Ouais, je pense que tu continues à raider.
Et toi, encourage-le pas, toi. Comme, prendons une autre ligne de poudre.
Mais on aurait pu faire jouer une Testify comme pendant que tu fais jouer ton truc politique. Ça,
ouais, ça aurait été à propos.
Que Rage était quand même assez politique.
Ben non, voyons donc.
À peine. Ben, j'ai quand même dit ça. Fait que j'ai décidé de revenir sur quand même sur ce jeu-là qui a recoupé beaucoup de mon temps depuis que j'ai commencé et je suis allé vérifier en novembre 2008.
C'est juste ça que j'attendais. Genre, quand est-ce que t'as commencé puis combien d'heures?
On va finir avec ça. Fait que ben, j'avais pensé écrire une ode à Sirius, là, mon personnage, puis m'accompagner aux luttes. Puis quand je suis allé voir à Lutry, là, à rue Guizot, c'est quelqu'un qui était passé en avant de moi. Là.
À l'école de lutte, ça arrive Guizot.
Il n'y a pas d'école de lutte, ça arrive Guizot.
Ben oui, c'est écrit Lutry.
Ben oui, mais...
Merci, M. Blanchet.
C'est un de mes bouts préférés. Là. Après ça, il dit qu'il leur a tout pété à la gueule, puis qu'il était vieux, puis qu'il était avec un violon, puis qu'il a pété sa tête. Mais non, je me suis dit qu'écrire un recueil de haïkus serait peut-être de l'appropriation culturelle. Là. Puis après nos jokes de yellow washing la semaine passée, je me disais que c'était peut-être un peu douteux. T'as pas écouté le pod, toi.
J'ai manqué ça, moi.
Je parlais de Lego City, puis j'étais comme, il n'y a pas aucun personnage comme noir ou rien. Ils sont tous jaunes, fait qu'on sait.
C'est devenu du yellow washing.
Yellow washing.
C'est une uchronie, c'est ça?
Ou Shawshank Redemption est avec tout du monde jaune.
Ouais, c'est ça. Voilà, fait que je me suis rappelé que j'avais vu passer quelque chose sur Reddit cette semaine, là, quelque chose qui soulignait qu'il y a 12 ans, un événement marquant s'était produit dans l'univers, en fait.
I'm coming up with 32.33 repeating, of course, percentage of survival.
Well, it's a lot better than we usually do.
All right, thumbs up.
Ready, guys?
Let's do this. Leroy Jenkins!
Oh my God, he just ran in.
le king du micro qui pique ici.
Ouais.
Ouais, j'aurais dû garder aller pogner le bout au moins, parce qu'à la fin, il dit, at least I've got chicken. Leroy. Mais oui, 12 ans de Leroy Jenkins.
David Leroy.
Fait que, ben oui, ce jeu-là a pris beaucoup de mon temps, comme je dis, pas mal de place, même dans mon horaire des dernières années. Puis il y a pourtant aussi beaucoup de place dans le monde du jeu vidéo en général, dans le monde du MMO en particulier, puis dans la culture populaire aussi. Ce qui est impressionnant pour un jeu, quand même, dans une catégorie de jeu assez nichée, on va se le dire. Fait que ça m'a donné envie de faire un petit survol des impacts que WoW aura eu sur certains de ces aspects-là. Je commence avec la première partie de mon survol.
That's the world of Warcraft that you play. That's the world of Warcraft that you play.
On est loin de Pac-Man Fever, hein? C'est,
je pense juste à Karen. She probably lives
alone. Ce clip-là, il y a comme beaucoup de bons morceaux, mais je me suis rendu compte que pour quelqu'un qui n'a pas joué à cette époque-là, c'est zéro drôle. Là, parce qu'il passe chacune des classes.
Ah, sacrifice.
Oui. Donc, si on vient au niveau de l'univers du monde du MMO, tu sais, je vais commencer un peu dans les impacts qu'il y a pu avoir dans ce côté-là. Tu sais, à la base... C'est pas World of Warcraft qui a inventé le domaine. Tu fais un jeu au départ, là. Tu t'imagines pas que. Tu sais, puis il y a un jeu que les gens font qu'ils achètent le jeu puis qu'il faut qu'ils payent à chaque mois. Tu t'imagines pas que ça va rejoindre autant de monde que ça. Puis on l'a su parce que les serveurs plantaient à tout bout de champ au début parce qu'il n'y en avait vraiment pas assez. Ils ont vendu quelque chose comme 1 million de jeux en peu de temps. Puis ils ont fait comme. On pensait que ça allait prendre 1 an et demi avant qu'on se rende à ce nombre-là, dans nos estimations les plus farfelues. Fait que, tu sais, c'est un jeu qui a eu dans le pic 12 à 15 millions de joueurs. Là, j'oublie les chiffres, là, mais une affaire de pas d'allure. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça laisse une marque, ce genre de montée-là. Mais c'est ça. Blizzard n'a pas inventé le concept, là. Ça existait avant, là, les premiers, mettons, des gros guillemets, là. Monde virtuel aurait comme vu le jour autour de 1974, là, genre dans des connexions directes, des affaires un peu weird. Après ça, on a eu les mods qu'on avait déjà parlé quand on a parlé de la mode.
Ouais.
Bref, on s'entend là, qu'on était loin de nos piou-piou, là, mais on est quand même dans le début du jeu en ligne, puis du jeu où est-ce qu'on est plusieurs joueurs à interagir. Donc le côté de roleplay aussi était là. Tu sais, je ne ferais pas une thèse de maîtrise là, sur l'histoire du MMO, mais il y a quand même quelques petits points intéressants à soulever, là, surtout pour les nostalgiques. Le terme MMORPG a été popularisé par Richard Garriott, qui est le créateur de Ultima Online. Donc, un des premiers jeux qui a été quand même assez populaire dans cet univers-là, 97, si je ne me trompe pas, là, la sortie de Ultima Online. Puis, calisse que c'était lettre.
Ouais.
Mais même à l'époque, c'était lettre, mais c'est parce que là, tu te retombes avec la rapidité de connexion qui était à la limite. Là, fait que, voilà. En France, ce qui a vraiment fait monter la popularité des jeux en ligne, ben, ça a été la quatrième prophétie de notre fameux T4C.
Mon Dieu.
Qui a eu une entrée Wikipédia à peu près de 4 lignes, qui dit quelque chose comme... Ben,
ça appartient à Goa.
Ça a été racheté par Viacom, puis il y a encore du monde qui joue, mais de façon très nostalgique parce que ça a mal vieilli.
C'était dégueulasse à l'époque.
Pas capable d'ouvrir une porte, rester pogné dans un coin.
Ça a toujours
été. Les sons.
Ouais. Allez, les sons stock, là, une banque de sons stock.
Mais on se rappellera, 56K, tu sais. Fait que c'est...
Ouais.
Non, moi, ça n'a jamais marché pour moi.
J'avais compté ce que j'avais fait pour. On rentre dans le.
Sure, vas-y.
Pour le. L'enterrement du garçon de Guillaume. C'est l'époque où était sorti le film Pirates, là. Pas celui-là, mais le film de fesses, là, avec une grosse. Avec un gros budget, là, tu sais, qui était comme en HD et tout ça. Fait, j'avais été comme pogné une scène de ça, puis j'avais crissé la toune de T4C par-dessus. J'ai dit, Guillaume, j'ai fait un film exprès pour toi. J'ai mis ça, on avait rien en crise. C'est deep cut en esti, là. C'est sûr.
Ouais.
That's it. Ouais.
après une anecdote de film de fesses.
C'est ça. Mais j'avais. Tout était censuré, là.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ben après ça, on peut parler comme d'EverQuest, là, par exemple, qui est sorti en 99, qui va être une étape là, qui va amener à ce qu'on a connu après. Puis on peut nommer aussi une deuxième vague de MMO là, qui a comme capitalisé sur la popularité d'EverQuest, là, Dark Age of Camelot, Anarchy Online.
Oh yes. J'ai joué à ça.
Il était dans cette vague-là aussi, là, mais du côté un peu plus.
En fait, RuneScape est probablement genre bien responsable des MMO gratuits. Là.
Ouais.
Avec son petit modèle en Java pur sur le net, là, c'était impressionnant. Là. C'était lettre à mort.
L'époque aussi de Ragnarok Online, si on prend les MMO plus asiatiques, coréens. Mm-hmm. Puis pas longtemps après, il y avait Maple Story qui était aussi un des premiers gratuits là, que tu pouvais payer pour du cosmétique. Puis,
Ragnarok Online, c'est ça les Treehugger, right?
Je pourrais pas te dire.
Tu peux prendre des objets, puis les prendre dans tes mains, puis les déplacer dans le jeu, mais si tu te pognes après une arme. Puis comme tu signais l'arme parce qu'il ne te fait pas bouger l'arme.
Moi, tout ce que je m'appelle de Ragnarok de Ragnarok
Bon, ça y est, Dan va encore une AVC.
Ce que je me rappelle, c'est juste comme plusieurs heures de grinding interminable pour faire finalement, c'est plate.
C'était beaucoup, mais c'était ça qui a fait que les Coréens, MMO... Ouais, mais ça, les MMO ne levaient pas beaucoup à cause de ça. C'était très grindy.
Ben, c'est ça. Fait que tu sais... Quelques années plus tard, quand WoW est apparu, le monde a comme accroché. Puis qu'est-ce qui fait qu'ils ont accroché autant? Mais c'est pas juste la popularité de la compagnie, tu sais. Parce que sinon, Final Fantasy XI aurait marché bien plus.
Ouais, il était sur console, là, par contre. Puis il demandait d'acheter un périphérique à 150$.
C'est vrai, c'est un peu plus. Non, mais t'as raison. Mais tu sais, il y a quand même eu d'autres jeux qui auraient pu avoir du reach aussi par la connaissance de la compagnie ou n'importe quoi. Fait que c'était pas juste comme ah, c'est Warcraft puis on connaît ça. C'est vrai que Warcraft 3 a eu une bonne popularité. Là. Mais tu sais, il a fait beaucoup de choses aussi. T'sais. Mettons visuellement. Ben, visuellement, les graphiques, c'est impressionnant parce qu'ils ont décidé de faire des graphiques très cartoony, très dessin animé. Mm-hmm. Ce qui fait qu'avec même les cartes vidéo de l'époque, puis même un ordi poche à l'époque, tu pouvais jouer quand même parce que tu baissais tes graphiques, puis c'était quand même relativement beau parce que c'était des couleurs vibrantes, des couleurs, tu sais, des contours du dessin animé qui essayaient pas d'être réalistes.
La technique Nintendo, là.
Ben, c'est ça. C'est ce qui a fait que le jeu a roulé sur des machines de marbre pendant longtemps. Puis quand ils ont fait un update des modèles de personnages, parce qu'à un moment donné, le compte de Polygon faisait que c'était quand même laid, mais ils ont quand même gardé l'opportunité de mettre, de cocher, d'avoir les vieux personnages pour avoir encore que. Fait que, tu sais, n'importe quelle machine presque peut le rouler, là.
Mais ça, c'est clairement, ça fait clairement partie de la clé du succès. Je pense à League of Legends, qui est tellement gros, puis c'est la même chose. Tu peux jouer à League of Legends sur...
un toaster, un frigo LG.
Un frigo LG.
C'est ça. Ça faisait longtemps. Non, mais puis Blizzard a toujours mis ça beaucoup de l'avant. Là, que mais Warcraft 3, quand il est sorti, il était low, puis StarCraft 2 aussi, était quand même compliqué un peu.
Oui, ouais, mais
on a toujours fait des efforts pour qu'il soit
facile. Tu prends Diablo, tu peux jouer là-dessus n'importe quoi.
Mais visuellement, ça a aussi le fait que c'est beau, puis ça vieillit bien. Parce que même 10 ans après, avant qu'il y ait eu un update du visuel, ben c'était encore beau à regarder parce que c'était cartoony. C'était pas comme... Mm. Prends un jeu qui a 10 ans et qui essaie d'être réaliste, tu le regardes, tu fais « ta ».
Ouais, non. Il y en a tout le temps. Ben c'est la majorité, malheureusement, là, qui essaye d'être au-delà des moyens techniques qu'ils ont.
Puis là, ça sort, puis c'est comme « c'est vraiment réaliste, c'est écœurant ». Puis là, 2 ans après, c'est
« ouais.
Fait que tu sais, je pense que ça, c'est un des éléments que visuellement accroche les gens. Au niveau de l'univers du jeu, tu sais, c'est pas toujours sérieux, là. T'es pas tout le temps dans une espèce de quête pour sauver le monde, même si à la base, c'est ça, tu sauves le monde. Mais tu sais, tu te promènes, puis ben oui, tu commences, puis tu tues des loups, slash sangliers, slash squelettes pendant une couple de levels, là. Je veux dire, tu passes pas à côté. Mais tu te trouves à faire des quêtes où est-ce que tu ramasses des cacas ou tu fouilles dedans, ça arrive des fois. Il y en a au moins une par expansion, tu sais. Parce que ça fait rire, on va être franc. tu vas ramasser les...
La face à Jeff qui est comme... OK.
T'as pas changé des couches, toi.
Mais bon.
Tu te ramasses à ramasser les morceaux d'un véhicule gobelin qui a explosé pendant une course pour refaire un nouveau véhicule pour le prochain qui va faire la course, tu trouves, puis tu cherches ce qui s'est passé avec la femme de Mancric, là, que finalement elle est décédée, tu sais. Fait que t'as des quests hyper diversifiés de différents genres, tu sais, des trucs très ancrés dans la politique puis dans l'univers du jeu, des trucs qui ont aucun rapport, que c'est juste une petite side quest nowhere, mais qui font que le monde est diversifié puis pas tout le temps sérieux. Des fois, c'est plus, juste épais puis drôle.
Plus toutes les références à la pop culture puis aux autres jeux Blizzard ou à d'autres jeux. Tu sais, tu parlais des courses de gobelins, ils ressemblent pas à des Podracers, le char. Là.
Ah, ça se peut, hein, ça se peut.
À rajouter dans la liste
même,
des références.
Il y a quand même quelques années que cette zone-là a été inondée dans le jeu, fait qu'on peut plus faire de courses. Il y a une grosse crise de barge qui flotte sur l'eau qui est vraiment hot aussi, là, mais...
C'est comme nier les prequels, ça.
Voilà. C'est ça, exact. Inonde moins tout ça.
Puis crée une barre sur le top. C'est... mais parlant de quête aussi, ben, y en avait dans les autres jeux avant. Mais genre, soit qu'elle donnait pas d'expérience, puis c'était juste là, genre, pour t'amener à quelque part, ou il y en avait pas assez pour que ça fasse quoi que ce soit, là. Puis que ça te fasse pas monter de level. Et mettons qu'on parle de TKT parce que j'y ai joué.
Ouais, c'est
comme
tu avais
comme 4 quests par genre de zone, là. Mais les autres jeux, c'était un peu le même principe, où ils donnaient pas d'XP, ou bref, c'est pas ça qui était central à l'univers. Fait que, ça donnait quoi de chercher des quests pis tout ça? T'étais aussi bien de te planter à un spot proche d'un un endroit où les monstres ils spawnent, puis tuer des monstres en boucle, là.
Farmer des tarentules.
Shout out au pont des cracras, au lac des tatas, t'es cassé, là.
Mais
tu restes au même spot, puis tu shot, puis tu shot.
À ce niveau-là, quelque chose que j'aimais de World of Warcraft, puis je pense qu'il a été repris dans les jeux par la suite, c'est qu'il y a pas, c'est pas linéaire. Tu sais, du niveau 1 à 10, bah, tu commences là, mais après ça, 20 à 30, t'es pas obligé d'aller à Westshire. Tu pourrais aller ailleurs. Il y a tout le temps, il y a souvent plusieurs zones choix pour un même niveau. Fait que, tu sais, il y a une rejouabilité à prendre un deuxième perso. Vous savez, je vais aller par là à place.
Oui, puisque sur le même continent, t'as au moins deux spots pour, en tout cas, une partie, puis demander ça revient, puis t'as l'autre continent. Puis dans la dernière expansion, c'est pire que ça. Chaque zone s'adapte à ton level, fait que tu les fais dans l'ordre que tu veux, puis t'auras pas comme « ah, c'est fucking facile, parce que j'ai mon... » Il s'adapte à ton niveau, peu importe ton niveau, genre, qui top à 110, qui est le niveau maximum. Fait que, bah, OK, ce personnage-là, je vais m'aller à telle zone en premier. Ah, celui-là, on va faire la telle autre en premier. Puis ça fait comme que tout le monde est dans plein de zones différentes. Puis ça évite aussi les débuts d'expansion parce que tout le monde est dans la même crise de spot, là, puis que ça, ça lag, puis ça crash. Ouais. Mais en dehors de ça, ça t'amène un choix, ça enlève la linéarité. Puis c'est vrai que c'est intéressant. Mais justement, par rapport au quest, c'est ça, c'est que dès le début, les quêtes donnaient de l'expérience qui était assez révolutionnaire, puis en donnait assez pour que, je pense que si je me trompe pas, là, à cette époque, j'ai pas joué dans le classique, là, tu pouvais pratiquement faire toute ton expérience sans avoir à grinder rien en chemin, puis faire juste les quêtes, puis ça t'amène à quelque part d'autre. Il y a une raison d'aller à telle place, faire les quêtes qui sont là. Ah, il y en a plus. Mais là, ailleurs, je vais pas juste shotter des monstres pour rien. Fait que ça te permet d'aller un peu plus à partout, puis de voyager un peu plus dans le jeu, puis d'avoir une raison pour faire ça. On s'entend que ben, c'est ça te fait voyager, ça te fait découvrir beaucoup plus, puis tu suis la narrative pendant ça là, tu suis l'histoire qui est intéressante puis qui est présente là, comme dans puis beaucoup plus que dans d'autres jeux où il y avait moins de quêtes là, parce que tu as moins de façons de raconter l'histoire dans le sens. C'est bien beau de monter de niveau là, mais il faut faire ça pour une raison en général, tu sais, c'est bien beau de vouloir sauver le monde. Puis c'est une autre raison, je pense, qui a fait que ce jeu là a comme marqué autant, c'est que tu sais, tu arrives là, ton méchant à tuer. Mais le méchant, il n'est pas comme quelque part dans le monde où est-ce que tu peux te faire attaquer par une autre gang qui veut le tuer à ta place puis qui te bute pour tuer le monstre. Puis tu campes le petit spot de monstre pour avoir une gogosse que le monstre s'y drop ou un coffre avec des tambours dedans. Là. Je fais beaucoup de raisons dans T4C,
c'est assez ouais, c'est sûr. C'est sûr que tu. Tu sais, je suis pas un joueur d'MMO, je peux pas comparer, là, mais tu compares toujours avec la pire crise de vidange qui a jamais été faite.
Ben non, parce que les autres étaient comme du même style, pareil.
Écoute, j'ai pas joué à aucun, mais je pense qu'EverQuest était quand même plus complexe que T4C.
Mais tu sais, ça survient genre à Human Mind, qui a un following encore maintenant.
Ouais.
C'était
mais,
le même.
Mais ils les prédatent tous, tu sais.
Ouais, mais je pense que T4C était comme une espèce d'évolution de Ultima Online, tu sais. Fait que c'est pas. Mais dans le sens où, tu sais, oui, je compare à ça, puis c'est sûr, mais ceux avant avaient quand même cette idée-là d'avoir les monstres qui étaient dans la map principale, puis d'avoir des problèmes avec ça.
Il n'y a pas la notion de raid.
Ben, c'est ça. Les autres ont amené la notion d'instance, où est-ce que quand tu vas à certains endroits, tu te trouves dans une map qui est comme à toi, à un certain groupe de personnes, puis s'il y a d'autres mondes qui vont à la même place, ils vont avoir leur version parallèle de cet endroit-là, ce qui fait que tu n'as pas ces problèmes-là, ces problématiques de... Puis ça amène d'autres choses, là.
Ça amène d'autres problèmes, par exemple. C'est ça. Tu peux pas jouer solo au jeu aussi facilement qu'avant. T'sais, avant, tu peux aller de côté à côté du monstre. Il va toujours avoir du monde qui vont t'aider à le tuer. Là, t'es tout seul. C'est un raid à 6.
Je te dirais que tu pouvais pas. Parce que maintenant, il y a plein d'outils qui font que tu te mets en ligne. Oui,
non, ça, mais là, on parle de quand le jeu est arrivé. On parle de ce qu'il a apporté aux gens.
T'sais. Mais tu sais, je pense que quand le jeu est arrivé, il y avait moins de monde qui voulait y jouer tout seul. Parce que des jeux qui jouaient tout seul, il y en avait beaucoup. Puis tu sais, c'était le début d'avoir des jeux qui jouaient à plusieurs. Tu sais, fait je dis pas le contraire, sauf que je pense pas que c'était beaucoup comme un obstacle à ce moment-là, parce que c'était pas ça qui visait.
Non, mais tu sais, je pense à aujourd'hui, je compare dès qu'on parle de jeux multijoueurs avec l'instanciation, je pense à Destiny qui est tout est instancié, là, même le hub social est instancié. Puis je vais aller faire un raid, ils sont designés pour 6 joueurs. J'ai rarement 6 de mes amis en ligne.
Mais maintenant, tu parles de maintenant, t'as plus ce problème-là. Tu vas aller faire un raid, t'auras pas le niveau de difficulté le plus élevé. Mais t'as le Raid Finder que tu vas attendre peut-être un 5, 10, 15 minutes, puis tu vas être avec une gang qui est assemblée au hasard, puis tu y vas. Non,
Blizzard ont toujours su bien s'adapter à ce qui se passait. Oui. Mais parce c'est que ça. Hey, les 40-man raids, là, être 40 joueurs, là,
non, c'était quelque chose.
Ça marchait une époque, puis ça aurait pas dû marcher.
Ça a marché parce que ça commençait. Parce
ça
n'a
aucun sens.
Non, c'est ridicule.
Demander à 40 personnes d'être là en même temps pour faire un bout dans un jeu, ça n'a aucun bon sens.
Sauf que ce qui est intéressant de cette époque-là, c'est que ça créait l'appartenance à une guilde. Là, les guildes se tenaient ensemble. Il y avait des meetings là, IRL de guildes.
Il y en a encore de ça.
Ben, bien sûr.
Mais le fait que 40 est un nombre peut-être intense, mais cette idée-là de raid, c'est un autre truc que j'avais noté qui était différent, qui était nouveau. C'est que, OK, pour aller à telle place pour tuer ce monstre-là, c'est pas juste genre tu ramasses le plus de monde possible puis on y va en espérant qu'il n'y ait pas une gang plus grosse qui arrive et qui nous tasse. Là. ça te prend un nombre de personnes fixes. C'était 40, c'était un peu intense. Maintenant, c'est plus gérable. Mais c'est comme ça te prend 40 personnes. Mais pas 12, puis pas 60, 40. Puis tu y vas d'une certaine façon. Tu as une structure que tu vas falloir que tu fasses. Tu as des stratégies qu'il va falloir que tu appliques. Il y a comme il y a vraiment quelque chose.
Le boss, il est designé. C'est pas juste une grosse créature que tu tapes dedans jusqu'à temps que toi tu meurs ou lui meurt.
Ça met cette idée-là, les patterns, les stratégies.
C'est sûr que
ce qui m'a fait tripper dans le raiding, c'est ce qui m'a fait que j'ai raidé autant.
Mais c'est sûr que quand ça a marché, ça devait être génial. Tu sais, même si je me suis jamais rendu assez haut niveau pour. Tu sais, j'étais tout le temps en retard sur les rains. J'arrivais, puis personne ne le faisait, le rain, puis il avait progressé. Mm-hmm. Mais c'est une expérience de jeu que j'aurais aimé avoir. Ça doit être un sale trip d'être 40 c'est... qui communique, qui synchronise pour tuer 40, un boss. Hein.
Ben oui, évidemment.
Même pas 40, parce que, tu vois, les raids maintenant, ça varie entre 10 et 30. Là. Il y a une flexibilité que le raid s'adapte à. Ça, c'est la meilleure affaire qu'ils ont pu faire. Ben là,
no shit,
là. Mais tu sais, quand tu rentres là, à 20-25 dans un raid, là, c'est pour vrai, c'est épique. Là. C'est ce que j'ai aimé de cette expérience-là, puis de faire les stratégies, puis de se coordonner. Mm-hmm.
Puis tu peux-tu rentrer à moins?
Tu peux rentrer à moins, mais il va être comme si t'étais 10. Okay.
C'est le minimum qui scale.
Je me remets à Destiny, c'est super le fun de faire les raids à 6 players, mais il y a tout un moment donné où on était juste deux, puis on s'est dit, yodo, on y va.
Ah, okay. Ouais, c'est ça.
Tu t'en fais à moitié, t'es comme... Fuck yes!
Il y a une communauté complète au niveau de ça, là, de faire des trucs en solo là, dans WoW. Là. Puis il y en a qui sont des maudits mongols puis qui sont capables de faire des trucs en solo de l'expansion actuelle. Fait que comme pas du stock que ton level fait que genre, ça devient trivial. Là. Mais oui, puis tu sais, moi, ça a été un de mes trips longtemps de refaire des vieux raids, de me ramasser du vieux stock, des affaires comme ça. C'est le fun au bout. Là, c'est trippant de retourner voir. Même
sur visite, justement.
Sur visite, mais c'est vraiment comme visiter une maison vide là, parce que c'est pas.
Là, on en parle, on se fait des bons souvenirs, on se dit comment c'est trippant. Finalement, il va continuer à raider, Dan.
Non, parce que les raisons qui font que j'ai arrêté le raider, c'est pas que j'aime plus le jeu, c'est que j'ai comme pas le goût de me bloquer une période horaire. Genre, mon samedi matin, que je peux plus faire rien d'autre, ça me gossait. Ah,
ben, c'est pour ça que le fameux 40 man raids, ça a aucun esti de bon sens, que le monde doit se coordonner à travers les time zones et les continents.
Même les compagnies, à cette heure, il n'y a plus de timing, 40 personnes donnent des horaires variables.
C'est ça. Même pour la job, on a de la misère.
Fait que c'est ça. Ils n'ont pas inventé les raids, mais la structure, le nombre de joueurs, la préparation, puis la préparation, à cette époque-là, c'était encore plus n'importe quoi. Là. Tu jouais autant de temps à préparer qu'à raider, puis même le trip. Il y avait comme quelque chose de particulier à ça qui a fait que ça a été une nouveauté qui a amené du monde à s'organiser aussi avec des outils externes pour gérer ce qui se passait dans le jeu. T'sais.
Ouais, intense.
Ouais. Ben ça, EVE Online était plus intense encore, là, mais okay. C'est un autre dossier. C'est un jeu qui joue avec un spreadsheet d'ouvert. Là, t'sais. Fait qu'il y a eu un avant puis un après WoW pour l'univers des MMO. T'sais. Puis après ça, il y a beaucoup de jeux qui ont essayé juste d'imiter WoW pour aller chercher des joueurs, puis ça a foiré. Mm-hmm. Puis ça a pris du temps avant que des MMO essaient de faire comme, on va faire de quoi de différent. Pas de le copier, parce que de toute façon, si on essaie de copier, ça va pas nous aider à aller comme chercher des joueurs. Faisons quelque chose de différent qui va nous amener soit les mêmes joueurs qui veulent une expérience différente ou des nouveaux joueurs, style Destiny, là, qui n'ont pas essayé de copier WoW, là, qui ont comme un concept de MMO, mais qui est différent. Mais ça a pris du temps avant que les compagnies fassent « OK, on va faire ça », puis qu'ils se rendent compte aussi que « Ouais, c'est pas parce que j'ai pas 12 millions de joueurs que c'est pas une réussite, tu sais. » Parce qu'on a vu des mémos faire « Ah, oh, on a atteint juste 1 million de joueurs, là, on tire la plug. »
Ouais, mais quand c'est comme tout nouveau marché qui apparaît, là, tout le monde veut sa part du gâteau, fait que si les autres regardent le faire, moi aussi, je le veux.
Parce que on s'entend qu'il y a 1 million de joueurs, là. T'as une méchante belle réussite.
Sauf que l'investissement pour créer ces jeux-là est énorme.
Voilà. Mais voilà. Fait que, tu sais, c'est ça. Niveau gaming, il y a comme quelque chose qui est là, qui a comme eu un gros, gros impact. J'arrive avec ma deuxième partie.
This role-playing game, out in 2004, returns to the world of Azeroth, where heroes like Leroy Jenkins do battle. And that would be the world of Warcraft.
Merci, Monsieur Trébec.
Ouais. Fait que, mais il n'y a pas que l'univers des MMO qui a été touché par ce mastodonte. Le vrai monde aussi a quand même connu WoW, même des gens qui n'ont pas joué. Tout le monde en a entendu parler, soit à cause des nombreux articles là, qui parlent des problèmes de dépendance, là, puis des questions de Jeopardy. By the way, là, assez déçu des kids du championnat collégial de Jeopardy qui non, pas de référence à World of Warcraft. Là.
Ah, okay.
Les trois kids, la face vide. Je suis déçu, t'es supposé être un nerd. Je t'accepte plus dans ma gang.
Sacrifice.
Mais on retrouve à l'époque, dans le fond, où la popularité du jeu était à son apogée, bien des références à ce jeu-là dans un paquet d'endroits, puis des endroits où est-ce qu'on s'y serait peut-être pas attendu. Des fois, c'est subtil, des fois, ça l'est un peu moins. Là. J'en ai pris quelques-uns, là, parce qu'il y en a comme beaucoup, beaucoup, mais des fois, c'est pas super intéressant. X-Men Origins Wolverine, jeu vidéo, pas un super gros succès. Là. On retrouve dans une caverne, à un moment donné, dans le jeu, une place où est-ce qu'il y a une épée dans une comme caverne perdue qui est clairement Frostmourne, là, l'épée de Artis, qui est là, puis elle ressemble identique, même si je pense que c'est écrit Artis dessus, si tu regardes. Puis à côté, il y a un squelette, puis un point d'exclamation jaune sur la tête du squelette. c'est juste comme the job, tu sais, une belle référence. How I Met Your Mother, saison 3, épisode 6. Ted parle dans l'épisode qu'il a rencontré quelqu'un en ligne. Puis à la fin du jeu, il y a un clip vidéo. À la fin de l'épisode, oui, merci. À la fin du jeu. À la fin de l'épisode, il y a un clip vidéo, dans le fond, de deux personnages de World of Warcraft qui se parlent. Là, je pense que c'est un Draenei mâle puis une femelle humaine. Puis là, t'apprends que c'est Ted qui est la femelle. Là,
bien
là.
Sûr.
Mais tu sais, c'est comme, ah, ils se sont rencontrés dans le jeu. Même série, saison 4, épisode 19. Ah, celle-là, je vous le fais entendre.
I've got yourself a deal. Robin, will you do the honors?
A gentleman's agreement.
Huzzah! All right, chunks, let's do this. Barney Austin!
Bon, la référence est plus à Leroy qui fait référence à War, mais ouais, on l'accepte.
Oh, mais il est rendu canon, fait que c'est clair. Il est correct.
L'inverse est aussi vrai. T'sais, on retrouve énormément de références à la culture populaire dans World of Warcraft, de Harris Pilton à Harrison Jones, en passant par Trogzor de Earthenator. La liste est quand même longue.
Oui, on la laisse ridiculement longue.
Oui, ridiculement longue. Mais un que j'aime particulièrement, il est audio celui-là, c'est un boss dans Ice Crown Citadel, juste avant le Lich King.
Good news, everyone! I think I've perfected a plague that will destroy all life on Azeroth!
Quelque chose que je pourrais entendre le professeur Farmsworth dire dans Futurama, puis faire. Correct, je pense que c'est.
Ouais, l'intro, le pitch était.
Oh, ouais. Puis il y a deux, trois autres drops pendant comme, le combat. Tu sais, dans le fond, t'es en train de te battre contre, puis il te lâche d'autres good news en se changeant de potion. Là. C'est calme. C'est quand même pas pire. Sinon, un autre de mes préférés à un autre niveau, celui-là, au niveau de ce que ça représente, dans le fond, là, sur une petite île perdue dans la dernière expansion sur Draenor, dans le genre le sud-ouest de l'océan, t'arrives sur l'île si tu la trouves, puis. C'est une île qui est un hommage vraiment à un acteur là, qui aimait beaucoup le jeu. On retrouve sur l'île d'un paquet de trucs. Il y a un genre de petit mammouth. Puis il y a une lampe comme sur laquelle, si tu cliques, il y a un génie qui sort qui s'appelle Robin. Puis il y a un texte qui dit « Itty Bitty Living Space ». Fait que référence à Robin Williams, qui était un fan de ces jeux-là, de façon assez intense aussi. Fait que c'est un bel hommage qu'on a décidé de faire à lui en dropant une affaire complètement inutile dans le milieu de nulle part, mais c'est un bel hommage. C'est certain que la référence à la culture populaire, on peut pas la faire, tu sais, le lien entre la culture pop et World of Warcraft, sans parler de South Park. C'est une des références les plus connues probablement, puis les plus appréciées, autant par les joueurs que par les gens qui ont pas joué.
Puis c'est tellement satirique en plus.
Ah, c'est super satirique, mais en même temps, les joueurs, ils voient quand même un bel hommage. Parce que tu comprends que quelqu'un qui te fait ce genre de satire-là peut pas ne pas apprécier le jeu. Parce que surtout quand tu penses à tout le travail que ça demande de faire du machinima, là, de faire de la vidéo avec les mêmes bonhommes du jeu, c'est clair qu'ils ont passé du temps dans ce jeu-là. Là. C'est clair qu'ils l'apprécient pour faire comme « OK, on va faire une blague là-dessus. » Puis c'est fait avec beaucoup de respect, même s'il y a beaucoup de satire. Puis les gens qui jouent pas trouvent ça vraiment très drôle de jouer du monde, de rire du monde qui joue à World of Warcraft avec tous les clichés qui vont avec.
Et voilà.
Mais ils ont réussi à le faire en faisant que les gens qui jouent le prennent pas mal puis pètent pas leur plomb en disant « Ouais, des clichés, ouais. »
Je pense pas que tu peux prendre anyway, quoi que ce soit de South Park en pensant qu'il va genre, payer hommage de façon respectueuse même mais si il veut parler de quelque chose. C'est South Park. Là.
Ben ouais, mais
il y a un thème.
C'est pas là pour pitcher des fleurs à personne. Là.
Non, mais même sans pitcher des fleurs, je trouve qu'il y a quand même du respect dans la façon qu'ils l'ont fait. Ils ont réussi à une belle job. C'est vraiment un... Comme, si on parle de South Park...
kind of person would do this? Only one kind. Whoever this person is, he has played World of Warcraft nearly every hour of every day for the past year and a half. Gentlemen, we are dealing with someone here who has absolutely no life. How do you kill that which has no life?
C'est tellement bon. Faire une parodie autant de gros speech minable de fantasy cheap avec un no life. C'est brillant.
Le mom! Mom!
Ah oh non, ça c'était. Ça prenait ce moment-là dans l'épisode. Ça prenait le moment à South Park où c'était comme ah, oh, c'est-tu. Ben oui, un gros gris de gag de marde cheap. Là. T'es comme ben oui, c'est correct. Vous l'avez fait.
Ça, c'est pour te rappeler que c'est South Park.
C'est pour te rappeler que ça peut pas être si brillant que ça tout le temps.
Puis l'épée. Dans le fond, dont il y a question dans cet épisode-là, a été implémenté. Là, je ne sais plus trop de quelle façon dans War, mais elle se trouve à quelque part dans le jeu.
The Sword of a Thousand Truths.
Je pense que c'est ça. Là. Mais en tout cas, fait qu'elle est comme.
Ouais,
c'est
rétroactivement.
Elle aussi est rendue canon. ben voilà, tu sais. Fait que de mon côté, ben C'est sûr que je vais y retourner de temps en temps là, quand il va y avoir du nouveau contenu d'ajouter parce que je continue d'aimer le jeu, tu sais. Mais c'est ça, comme je disais, c'est juste le bloc de temps à réserver dans mon horaire que je n'ai pas le goût de faire ça. Il y a trop d'autres affaires que j'ai le goût de faire. Tu sais, par exemple, ben, si j'avais pas arrêté de raider, je pourrais pas être là ce matin en train d'enregistrer Divan Quest.
Hey, c'est vrai. C'est un matin de raid. Mon Dieu, Dan.
C'est ça. Je termine ça sur ma statistique gênante.
Oui, j'attends.
Question de me faire niaiser par les deux autres gars là, pendant beaucoup trop longtemps. Fait que le temps passé sur mon personnage principal, puis là, j'inclus pas tout le temps sur toutes mes alt parce que. Parce que ben ça aurait probablement été beaucoup plus, puis j'avais pas le goût de prendre le temps de les faire toutes.
Alors, pour savoir le nombre d'heures que Dan a passé, inscrivez-vous sur Patreon. On va dans. Ben non, check c'est pas Patreon. Vrai. Okay.
Vous ne croirez pas vos yeux combien d'heures Dan a passé.
Clickbait. La cassette de monde, il va mettre une pierre juste pour faire comme. Tabarnak.
Genre, le canceller avant que ça passe, la cassette. Ben ouais, fait que sur un personnage, mon personnage principal, on parle de 149 jours, 20 heures et 15 minutes.
149 ouais. jours.
But
tabarnak.
How do you feel? That which has no life.
Ben, tu fais faire un podcast qu'il faut qu'il enregistre le samedi matin.
C'est comme 5 mois, genre.
Ouais.
C'est comme. C'est 5 mois.
Je sais.
C'est, en plus, tu me dis que t'as déjà écouté Grey's Anatomy, fait que c'est comme une année au complet qui vient de passer.
Peut-être que. Peut-être, probablement qu'il y a des bouts que je faisais deux en parallèle, c'est clair.
Ouais, là, ça fuck les stats. Ben, merci d'être là aujourd'hui, Dan.
Hey!
Good show!
Donc, j'ai misère à me reprendre, à me ressaisir. Ben, si vous avez envie, si vous le pouvez, si vous pouvez nous donner un petit coup de main, même si on vous a déjà révélé le secret.
le secret de la shape athlétique à Dan. C'est 5 mots. Excusez.
Non, c'est correct. Ben, vous pouvez aller sur patreon.com/divanquest. Pour trouver les derniers épisodes, on va au divanquest.com. Pour du feedback, du hate mail, on va sur Twitter au twitter.com/divanquest. Sur Facebook, au facebook.com/divanquest. Ou par courriel au divanquest@gmail.com. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts de québécois sur le rzweb.com. Dans la playlist de PodQuébec au podquebec.com. Vous pouvez aussi aller sur podquebec.com pour voter dans le top 100 des podcasts de PodQuébec qui nous font monter.
Top 100? Top Québec. OK, c'est correct aussi.
Je sais pas. ils ont décidé de faire. Je pense que l'idée, c'est d'avoir comme tout le monde.
C'est drinky le 100 podcast.
Ouais.
Aussi, vous pouvez aller sur iTunes, cliquer les petites étoiles, laisser un commentaire, puis nous aider à être plus visibles de ce côté-là. Sinon, ben, on se retrouve dans deux semaines. Et d'ici là...
Game on!
Game on!